Vous êtes sur RTL.
L'équipe de nos petits matins, Alain Fischer, le monsieur vaccin mis en place par le gouvernement, et ce matin, l'invité d'Alba Ventura à 7h40 sur RTL. Alba lui posera toutes les questions que vous vous posez, que nous nous posons. Et à 8h15, c'est Bénédicte Tassard qui elle fera notamment un point sur les commandes de vaccins en Europe et donc aussi pour la France. L'autre dossier d'actualité, vous le savez, ce sont les toutes dernières heures de Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous allons retrouver Lionel Gendron à Washington dès 7h15 et vous entendrez ensuite ses supporters de Donald Trump, dont certains pensent qu'il est grand temps d'arrêter les dégâts, même s'ils l'ont soutenu pendant toute sa présidence. L'économie aussi, avec l'appel au secours du patron du Club Med, Henri Giscard d'Estaing. Il demande à Jean Castex une réouverture pour les vacances d'hiver et il sera notre invité en direct à 8h20. Nous sommes le lundi 18 janvier 2021. Très bonne semaine à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Une nouvelle semaine et de nouveaux espoirs alors que la vaccination partout s'accélère.
6,5 millions de Français vont dès ce lundi pouvoir réclamer à leur tour le précieux antidote, même si la livraison des doses a du mal à suivre. La solidarité dans ce journal, celle des supermarchés qui ouvrent leurs rayons aux restaurateurs. Reportage en Auvergne dans un instant. Nous reviendrons sur cet amendement finalement retoqué. Il proposait d'interdire le port du voile pour les fillettes. Un sujet trop risqué, estime la majorité. Et puis nous vous présenterons cette pile révolutionnaire, faite uniquement à base de papier recyclé. Elle vient d'être mise au point par des ingénieurs grenoblois.
La politique, Olivier Bost.
Et nous allons parler de l'avalanche de témoignages de victimes d'inceste sur les réseaux sociaux ce week-end. Cela va obliger et aider les politiques à agir contre ce fléau totalement tabou.
On vous écoute dès la fin du journal.
RTL Matin.
C'est un retournement assez spectaculaire de l'opinion publique. 56% des Français souhaitent désormais se faire vacciner. 14 points de plus en 3 semaines. Conséquence, un peu d'embouteillage dans la logistique. Plateforme internet saturée, numéro vert débordé. Heureusement, certaines collectivités locales prennent le relais. C'est le cas de Strasbourg qui a mis en place son propre numéro disponible du matin au soir, même le week-end. Un reportage de Yannick Collant.
Centre de vaccination Covid Strasbourg, bonjour. Vous avez plus de 75 ans ?
Naïma travaille habituellement aux espaces verts de la ville de Strasbourg, mais elle s'est portée volontaire ce week-end pour venir prendre les rendez-vous vaccination des plus de 75 ans.
Ce sera le 5 février à 14h30. Il y a beaucoup d'appels de couples. C'est madame qui prend en général les rênes. Hein. Déjà, ils sont surpris de nous avoir tout de suite. Ils nous remercient d'être là. On ressent même leur sourire à travers le téléphone, très sincèrement. C'est vraiment, ils sont demandeurs, mais ils sont contents aussi, soulagés aussi.
Car beaucoup de personnes âgées qui appellent ont du mal à prendre rendez-vous par internet ou par le numéro vert national. Le docteur Alexandre Fels, adjoint à la santé de la ville de Strasbourg.
On a plusieurs dizaines de milliers d'appels depuis qu'on a mis en place ce numéro. Hein, on a plus de 4000 rendez-vous qui sont déjà pris. Hein. Et on sait qu'au-dessus de 75 ans, c'est très important de pouvoir répondre au téléphone. On voit qu'il y a une demande beaucoup plus importante que ce qu'on avait pu penser.
À tel point que le grand centre de vaccination strasbourgeois, capable d'administrer 2300 doses par semaine, affiche déjà complet jusqu'à début février.
Reportage de Yannick Collant. Le problème majeur reste aujourd'hui celui de l'approvisionnement, alors que les doses du précieux sérum n'arrive que très progressivement. Il y a pourtant urgence à accélérer, estime Arnaud Fontanet. L'épidémiologiste était hier l'invité du grand jury.
On voit que le variant anglais finalement va rester relativement minoritaire pendant encore jusqu'au mois de février. Et puis, selon un des scénarios le plus probable, c'est vraiment en mars qu'il va devenir majoritaire. Maintenant qu'on sait que ces variants sont finalement plus transmissibles que le virus qu'on connaissait, ça veut aussi dire que la couverture vaccinale devrait être plus importante que celle qu'on avait anticipée jusqu'à présent. Rappelez-vous, je vous parlais de 50-67%. Là, on va probablement passer à 70-80%. On n'a plus aucune raison de se priver. Pour moi, ça devrait être 100%.
100%. 100% des Français vaccinés, c'est le souhait d'Arnaud Fontanet, invité hier du grand jury, qui n'envisage pas d'ailleurs un retour à la normale avant la fin de l'année.
Alors d'ici là, parce qu'il faut bien continuer à faire tourner le pays, toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues.
Notamment celles qui permettent de faire vivre, survivre, diront certains, l'économie. À Châtel-Guyon, dans le Puy-de-Dôme, les gérants d'un supermarché ont choisi d'offrir un espace de vente aux restaurateurs de la commune. C'est la belle idée du jour et c'est vous qui nous l'a raconté, Guillaume Frixon.
Oui, c'est un dispositif aussi simple qu'efficace. Un bac est installé pile à l'entrée du magasin. Une pancarte indique le coin des restos. Un prix unique à 9,90€ et chaque restaurateur dépose sa trentaine de plats à emporter derrière une étiquette mentionnant son restaurant. Ophélie et Stéphane sont deux restaurateurs de Châtel-Guyon.
Ils nous enlèvent une belle épine du pied, on remet le pied à l'étrier, on retravaille. Et il y a des gens qui nous connaissaient pas, qui nous découvrent via les plats qu'on pose ici, quoi. C'est vraiment super.
Sans aucune contrepartie, les restaurateurs profitent donc d'une visibilité inédite avec le passage des 800 clients quotidiens du magasin.
Je trouve ça très sympa. Ça leur donne un petit coup de pouce, les pauvres. Et on va se régaler. Parce que la semaine dernière, je vous les conseille, j'ai pris des cuisses de grenouille, elles sont excellentes.
Et une fois par semaine, le magasin reverse l'intégralité des recettes à chaque restaurateur. Stéphanie Nadeau est la directrice du Carrefour Contact de Châtel-Guyon.
Le premier week-end, on était parti la première journée sur 20 plats par restaurant. En 2 heures, on n'avait plus rien.
Preuve de son succès, en 1 mois et demi, le magasin a permis de vendre plus de 1600 plats. De restaurateurs.
Un reportage signé Guillaume Frixon.
RTL 7h04, cette charte de principe à présent, destinée à encadrer la pratique de l'islam en France.
Elle a été officiellement approuvée hier soir par les représentants du Conseil français du culte musulman, qui seront d'ailleurs reçus tout à l'heure par Emmanuel Macron, alors qu'est discuté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée le projet de loi contre le séparatisme islamiste. Officiellement, pas de tabou, sauf peut-être celui-ci, le port du voile chez les fillettes. Deux députés de la majorité souhaitaient l'interdire. Leur amendement vient d'être retoqué, il serait hors sujet. Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, à l'Assemblée, on appelle ça un cavalier, drôle de nom, pour qualifier un amendement glissé dans un texte qui n'a rien à voir avec le sujet abordé. C'est la raison invoquée en tout cas par la commission spéciale pour retoquer l'interdiction du port du voile aux petites filles. En fait, une astuce de procédure pour éviter à la majorité de se déchirer et au débat de se focaliser sur une mesure, certes, emblématique, mais qui risquait d'occulter tout le reste du projet de loi. D'autant plus ennuyeux pour la majorité que Marine Le Pen elle-même avait annoncé qu'elle était prête à le voter. Elle n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Selon elle, le gouvernement démontre qu'il n'a aucune volonté d'agir. Quant aux députés Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau, ils réaffirment leur conviction et leur fierté d'avoir porté le débat sur la place publique. Ils se défendent d'être des frondeurs. La solution trouvée permet en fait à chacun de s'en sortir sans y perdre trop de plumes.
Marie-Bénédicte Allaire.
Des piles non toxiques, j'ai bien dit non toxiques, à base de papier, il ne s'agit pas de science-fiction, mais d'une remarquable invention française. On vous en parle dans un tout petit instant, restez avec nous.
RTL Matin. RTL Matin.
7h07, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. C'est peut-être l'avenir d'une bonne partie de nos petits appareils à piles, cette invention française à base de papier.
On a terminé le lithium, très compliqué à recycler. Ouais. Voici la pile française 100% écolo, mise en place par BFC, une start-up grenobloise. Une trouvaille qui vient d'être récompensée au Salon mondial du high-tech à Las Vegas. Sophie Jousselin, soyons clairs, il ne s'agit pas de faire rouler sa voiture électrique avec cette pile en papier. Hein.
Oui, elle est plutôt destinée aux petits appareils électroniques, patch pour la surveillance du diabète, capteur d'humidité ou tout simplement test de grossesse. Aujourd'hui, ils fonctionnent tous avec des piles boutons, souvent au lithium, pas très bonnes pour la planète. Jean-Francis Bloch, directeur général de BFC.
Elles sont relativement difficiles à recycler. Plus de 97% finissent en déchet et sont souvent toxiques.
En revanche, cette petite pile fine et souple, faite de papier, de carbone, de glucose, donc de sucre et d'enzymes naturelles, est-elle respectueuse de l'environnement ?
On n'a aucun matériau toxique, pas de métal, pas de plastique.
Pour déclencher la réaction chimique qui produira l'énergie, une simple goutte d'eau suffit.
On a un petit réservoir qui contient du fluide et vous avez à appuyer dessus pour libérer le fluide.
L'énergie produite dépend de la taille de la pile, jusqu'à plusieurs semaines, mais aussi pour un temps très court.
Prenez le test de grossesse, vous l'utilisez, au bout de 5 minutes, c'est terminé. En fait, on s'adapte. Quelqu'un qui veut l'utiliser quelques heures ou quelques jours, eh bien, ils n'ont pas besoin de la même réserve d'énergie. Et nous, on va augmenter la surface de nos cellules.
Et cette pile en papier peut être stockée de 12 à 15 mois sans perdre de son énergie.
Sophie Jousselin. Militaire à tous les coins de rue, fil barbelé, boutique barricadée. Voilà à quoi ressemble la capitale de l'Amérique à 2 jours de l'investiture officielle de Joe Biden. Washington transformé en camp retranché. 15 jours après l'assaut du Capitole par des militants pro-Trump, les services de sécurité craignent de nouveaux débordements.
Après ce journal, nous rejoindrons à Washington nos deux envoyés spéciaux, hein, Lionel Gendron et Brice Dugénie, à 48 heures de cette passation de pouvoir qui s'annonce aussi mouvementée qu'historique.
À peine avait-il posé hier le pied en Russie que l'opposant Alexei Navalny, ennemi juré du Kremlin, a été arrêté par la police à Moscou. De retour d'Allemagne, après une longue convalescence due à son empoisonnement, ses instants de liberté n'auront finalement duré que quelques minutes. Reportage à Moscou de Félix Grasso.
Quelques centaines seulement de partisans d'Alexei Navalny s'étaient déplacés, pensant l'accueillir à la sortie de l'aéroport de Vnoukovo, mais rien ne s'est passé comme prévu. Impossible de pénétrer dans le terminal sans avoir de billet d'avion, et même à l'intérieur, ses supporters ont déchanté en apprenant que l'appareil était détourné vers un autre aéroport. C'est donc depuis Cheremetyevo qu'Alexei Navalny a livré ses impressions à la presse.
Je n'ai peur de rien et vous aussi, n'ayez pas peur. Merci. Allez, on passe la douane.
C'est là que l'opposant a été arrêté pour des manquements à son contrôle judiciaire alors qu'il se faisait soigner en Allemagne. Les services pénitentiaires exigent la révocation du sursis dont il bénéficiait dans une condamnation à 3 ans et demi de prison. Sergueï Boïko, représentant de Navalny à Novosibirsk en Sibérie, a réagi à son arrestation.
Tout est clair pour Alexei. Il est courageux, il n'a pas eu peur et il rentre dans le pays où on a essayé de le tuer sans avoir de garantie sur sa propre sécurité. Il revient pour faire de la politique.
À Vnoukovo toujours, les forces anti-émeutes ont arrêté une cinquantaine de partisans un peu trop véhéments, ainsi que 3 proches collaborateurs d'Alexei Navalny.
Félix Grasso en Russie pour RTL. En foot, Lyon surpris hier soir à domicile par le FC Metz. 1-0, un but encaissé dans le temps additionnel. L'OL qui du coup cède la place de leader en tête de la Ligue 1 au Paris Saint-Germain et à Lille, qui mène désormais le tableau avec 2 points d'avance. Et puis le saviez-vous, aujourd'hui, 3e lundi de janvier, le jour de l'année considéré comme le plus déprimant.
Ah bon ?
Eh oui, le Blue Monday, on doit cette conclusion à des scientifiques de l'université de Cardiff qui se sont basés sur une formule assez simple, la météo. Le contre-coup financier des fêtes de fin d'année, les bonnes motivations qui commencent à flancher. Mm-hmm. Vous rajoutez cette année le couvre-feu et le virus et je crois qu'on est bon. Heureusement, il existe un autre classement établi par un chercheur hollandais, celui des chansons qui nous rendent le plus heureux parce qu'elles combinent tous les ingrédients, des paroles positives et un tempo idéal. Et voici le gagnant. Queen, évidemment. Bon, on ne sait pas trop ce que vaut ce classement, mais le principal, c'est que ça fait du bien. Sachez que Eric Jean-Jean, justement, ce soir, entre 21h et 22h, nos bonus tracks passera en revue ces chansons qui nous font du bien. Abba, Cyndi Lauper, les Beach Boys, de quoi rendre ce lundi peut-être un peu moins déprimant.
En fait, on restera bien un petit peu avec les Queen et Don't Stop Me Now. Bon, alors, les courses, elles ont lieu à Vincennes.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 14, le 12, le 10, le 8, le 2, le 7 et le 6. La dernière minute, c'est le 10, Enzo Dessart.
C'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h12, La Politique avec vous Olivier Bosse, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, sur les abus sexuels incestueux subis par son frère a provoqué des dizaines de milliers de témoignages sur les réseaux sociaux ce week-end. Olivier, cela va-t-il pousser nos responsables politiques à réagir ?
Eh bien, les témoignages que nous avons lus ce week-end commencent souvent par la même phrase. J'avais 5 ans, j'avais 8 ans, j'avais 14 ans. Mon père, mon oncle, mon frère venaient dans ma chambre. Ce déferlement de témoignages vient confirmer un constat déjà établi. Une personne sur 10 au moins en France, selon plusieurs études, dit avoir été victime de violences sexuelles dans son enfance. 8 fois sur 10 dans la sphère familiale et dans l'écrasante majorité des cas par des hommes.
Cette libération de la parole est-elle une bonne nouvelle, entre guillemets, bien entendu ?
Oui, alors pour les victimes, bien sûr, qui ont besoin de se reconstruire, pour aider les autres victimes à parler aussi, c'est un important. Et puis pour les politiques, pour qu'ils puissent agir plus rapidement sur ce sujet ultra tabou. On ne peut pas dire que rien n'a été fait contre l'inceste et contre la pédophilie, mais c'est lent, ça reste même très lent. Les relations sexuelles dans une famille étaient déjà pénalement répréhensibles, mais il a fallu attendre 2016, il y a 4 ans, pour que le mot inceste figure dans le code pénal. On lutte contre un fléau quand on le nomme. En 2018, la prescription, le délai pendant lequel une plainte peut être instruite pour viol sur un mineur, a été porté à 30 ans au lieu de 20. Des associations demandent d'allonger encore ce délai. L'autre question qui est reposée aujourd'hui, c'est au-delà de l'inceste, c'est celle de l'âge du consentement. À quel âge considère-t-on qu'il ne peut pas y avoir de consentement de la part des enfants pour une relation sexuelle ? Jusqu'à quel âge ? 15 ans ? 13 ans ? Dans un entretien au HuffPost ce week-end, Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, a dit « Si on décide de bouger, il faudra une loi ». Hier soir sur TF1, Brigitte Macron a dit « appeler de ses voeux une réforme judiciaire ». Encore une fois, la libération de la parole ne laissera pas le choix aux politiques qui devront accélérer.
Alors pourquoi dites-vous encore une fois ?
Cela me rappelle un peu le Grenelle des violences faites aux femmes. Le constat était là, avec le décompte des féminicides, les solutions aussi étaient là. Mais Marlène Schiappa voulait faire un Barnum et emporter le résultat. Pris de vitesse, le gouvernement avait dû soutenir, avant la fin du Grenelle, une proposition de loi du député Les Républicains Aurélien Pradié. Il a permis notamment la généralisation du bracelet électronique électronique pour éloigner les conjoints violents. Là, pour l'inceste, le gouvernement vient de lancer, il y a un mois, une commission qui doit travailler pendant 2 ans. Or, une députée de La République En Marche, Alexandra Louis, a déjà fait plus de 70 propositions dans un rapport remis récemment au gouvernement. Et les oppositions, elles, ont déjà des textes prêts à être adoptés. Une loi portée par une sénatrice centriste, Annick Billon, est en discussion ce vendredi au Sénat. Dans un mois, une loi proposée par la députée socialiste Isabelle Santiago sera présentée à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, le gouvernement, par la voix de Marlène Schiappa, a dit hier soir sur LCI vouloir encore trouver ce qu'elle a appelé la bonne méthode, à moins que la libération de la parole pousse le gouvernement à agir plus vite.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, c'est Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, qui sera l'invité d'Alba Ventura. Dans un instant, direction les États-Unis, où nous allons vous faire vivre les toutes dernières heures du mandat de Donald Trump. Mercredi, l'Amérique change de président.
Yves Calvi, RTL Matin.
Dans 2 jours, vous le savez, Donald Trump quitte la Maison Blanche à contre-cœur, hein, mais il n'a plus le choix. Alors ce matin, nous avons cette question pour notre brigade de l'actualité. Que va faire l'ancien président américain désormais ? Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes à Washington pour RTL. Voyons d'abord l'avenir de Trump, on va dire à court terme.
Alors mercredi matin, il prendra l'hélicoptère Marine One, direction la base d'Andrews pour monter à bord d'Air Force One. Il se dit qu'il pourrait y avoir une cérémonie d'adieu sur la base, mais ça reste encore mystérieux. Alors on le sait, Donald Trump ne veut pas être à Washington quand Joe Biden prêtera serment. Il devrait partir assez tôt, car jusqu'à midi, il utilise Air Force One comme il veut, mais à midi une, il devra demander la permission à Joe Biden. Direction la Floride donc pour sa nouvelle vie à Mar-a-Lago. Et en fait, c'est tout le camp Trump qui va s'installer en Floride, ses fils Eric et Donald Jr., Ivanka également, qui viserait là-bas un poste de sénatrice pour 2022. Premier problème, les futurs voisins ne sont pas enchantés. Le mois dernier, les habitants de Palm Beach ont interpellé le conseil municipal. Selon eux, le club de Mar-a-Lago n'est pas censé être une résidence principale. En clair, ils aimeraient que Donald Trump aille voir ailleurs.
Alors, il y a une certitude, hein, c'est qu'on va encore entendre parler de Donald Trump, que ce soit au niveau politique, judiciaire ou médiatique.
Oui, alors déjà, il va y avoir son procès en destitution, pas de date, mais assez rapidement. Si les sénateurs le destituent, ils peuvent ensuite ajouter un article pour l'empêcher de se représenter en 2024. Et en fonction, ça va changer le paysage politique américain. De toute façon, il rappellera aux républicains les 74 millions de bulletins de vote avec son nom dessus. Au niveau judiciaire, Donald Trump va perdre son immunité et une multitude de plaintes l'attendent pour fraude fiscale ou harcèlement sexuel. Le procureur de New York, Cyrus Vance, a déjà préparé ses dossiers. Alors les 200 000 dollars annuels de retraite en tant qu'ancien président l'aideront peut-être à payer ses frais d'avocat. En tout cas, les 2/3 des Américains veulent le voir sortir de la vie publique. Sa cote de popularité a chuté à 29%, la plus basse jamais enregistrée pour une fin de mandat.
C'est donc du jamais vu. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant d'RTL. Aux États-Unis, cette chute de popularité est peut-être aussi le résultat de l'invasion du Capitole. Retrouvons à présent Brice Dugénie, notre envoyé spécial aux États-Unis. Bonjour Brice.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes allé à la rencontre des électeurs de Donald Trump pour voir si l'attaque du Congrès avait laissé des traces.
Oui, bienvenue dans le Maryland, à 45 minutes de route à peine à l'est de Washington. Pourtant, cette Amérique rurale et littorale semble à des années-lumière de la capitale. Dans ces quartiers résidentiels de la classe moyenne, les énormes pick-up sont garés devant des maisons modestes. Sur les façades, dans les jardins, flotte le drapeau américain et parfois la bannière de Donald Trump. Le week-end, les habitants se retrouvent dans un bar-restaurant, le Happy Harbor, le port joyeux, une petite baraque en bois sur un ponton le long du port de Plaisance. À l'extérieur, des enceintes crachotent un tube américain des années 70. À l'intérieur, le masque est recommandé, mais seule la serveuse le porte. La distance sociale fait l'objet de plaisanteries et ne résiste pas à la convivialité du comptoir. Dehors, Anne et Bob prennent un verre. Lui est un vétéran du Vietnam. Quand il parle de l'invasion du Capitole, il a les larmes aux yeux. Mais il défend Donald Trump.
Nous aimons le président des États-Unis, Donald Trump. Il a dit « Levez-vous pour défendre vos droits ». Il n'a jamais dit « Sortez et provoquez une émeute ».
Il a dit « Allez au Capitole », mais il n'a pas dit « Casser les vitres », »,« Frapper des policiers avec des bâtons ». Il n'a pas dit ça. Ce sont les médias qui ont mal interprété ses propos. Faites attention à ce que racontent les médias.
Et quand on leur parle de Joe Biden,
il était vice-président sous Barack Obama. Excusez-moi, mais il a fait quoi? Il faut qu'il prouve désormais.
Pour Anne, le président Trump n'a que des qualités. Il parle comme elle. Elle pense comme elle, mais elle reconnaît que Donald, comme elle l'appelle, aurait dû soigner sa sortie.
Il aurait dû faire plus attention à ses propos. Donald est peut-être trop direct. Il aurait dû quitter sa fonction avec plus d'élégance. Là, on n'en peut plus de ces histoires. Trump, Biden, du coronavirus, tout le monde en a marre. Le peuple américain est fatigué.
On l'entend, Brice, hein, parmi les soutiens les plus fervents, il y a aussi quelques remarques, voire des critiques.
Oui, parce que même s'ils aiment Donald Trump, qu'ils l'adorent même pour certains, ils aiment par-dessus tout les États-Unis d'Amérique. Et les images du Capitole et l'interminable feuilleton depuis l'élection de novembre commencent à lasser. Jackie se montre beaucoup moins clémente.
À son âge, je veux bien lui pardonner ce qu'il a fait, mais on n'oubliera jamais. C'est bien le président Trump qui a demandé à ces gens d'aller faire ça au Capitole. Et c'est un manque de respect pour le peuple américain. C'est mauvais pour le pays. Un président qui détruit, non, c'est trop. Il est temps de tourner la page.
Le long de ce petit port de plaisance, Alan se promène avec sa femme Teresa. Il n'accable pas Donald Trump, mais souhaite désormais tourner la page et vite. Il ne faut pas, selon lui, que Trump et la procédure de destitution empêchent les réformes urgentes.
Ce bazar n'aurait jamais dû arriver, mais il faut avancer. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, beaucoup d'entreprises sont menacées avec cette deuxième vague de la pandémie, et on n'est toujours pas sûr que ce vaccin va nous permettre de sortir de tout cela. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur ces problèmes plutôt que sur Donald Trump. C'est bien plus important pour les Américains.
Il veut passer à autre chose, sortir vite de cette passation de pouvoir un peu pathétique et commencer la vie dans l'Amérique d'après Donald.
Merci beaucoup, Brice Dugénie. Nous continuerons à vivre cette passation de pouvoir aux États-Unis avec vous d'ici mercredi. Avant 7h30, le Tout Info d'Isabelle Choquet. Nous allons retrouver Louis Baudin pour la météo de notre lundi, les grosses têtes pour rire un peu et découvrir une nouvelle pépite musicale avec Anthony Martin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h24, bonjour Tony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Voilà, première pépite de la semaine.
Alors pour démarrer, on se remet en tête cette chanson.
On n'a pas trop de mal à se la remettre en tête.
Ah non, c'est magnifique. Hein. En 1985, les Rita Mitsouko inventaient le rock latin et réussissaient l'exploit de nous faire danser tout l'été sur une oraison funèbre, hein, puisque ce tube Marcia Baila est un hommage à Marcia Moreto, danseuse argentine dont Catherine Ringer adorait la fantaisie, danseuse emportée par un cancer à l'âge de 32 ans. Plus d'un million de disques vendus en quelques mois en France. Et cette chanson s'est exportée notamment, et j'allais dire logiquement, en Amérique latine, à Cuba, au Mexique. Et Marcia Baila est arrivée jusqu'aux oreilles du chanteur portoricain Ricky Martin, qui à la fin des années 90 a décidé d'en proposer sa propre version. Il a fait adapter le texte, qui n'a plus rien à voir. Hein. Ricky Martin raconte une danse à deux qu'il fait chavirer. C'est une curiosité, c'est notre pépite du jour. Ricky Martin et sa version salsa du Marcia Baila de Rita Mitsouko. Alors ça peut faire mal aux oreilles des puristes, hein. Mais Ricky Martin a le mérite de nous faire danser, oui. Et puis d'avoir mis du cœur et des cuivres dans cette reprise du Marcia Baila de Rita Mitsouko. On trouve sa version dans son album Vuelve, sorti en 1998.
Attention, va y prendre goût, vous allez voir. Merci beaucoup, Tony Onsdiana, pour une nouvelle pépite. Et puis on retrouve à tout moment, en podcast, tous vos rendez-vous sur le site RTL.fr. Les grosses têtes seront de retour dès 15h30 cet après-midi. Et ce matin, ils reviennent sur l'incroyable histoire du logo Nike.
Nike a mis 10 ans à récompenser la créatrice logo.
Ah oui, ils lui ont donné combien ?
Elle a fini par recevoir une bague représentant le logo avec un diamant, ainsi que des actions quand même de la société Nike. Mais au départ, elle l'avait vendu 35 dollars. Ce fameux logo de Nike, le swoosh.
Cela dit, excusez-moi, c'est pas non plus le logo qui a fait le succès de la marque.
Vas-y, la meuf, là, t'arrêtes de foutre le bordel, là.
Caroline, c'est énorme, cette marque. Ah, si, si.
Non mais ça veut dire que cette qualité, c'est peut-être des bonnes chaussures ou des bonnes. Voilà,
exactement. Non, mais comment tu peux le savoir, hein? La première chaussure qui arrive, il y a une virgule dessus, tu dis oh, ça doit être une sacrée bonne paire de chaussures.
En forme. Hein. Cet après-midi, nous retrouverons Jean-Benguigui, Ariel Dombal, Bernard Mabille, Christine Bravo, Isabelle Mergot et Jean-Jacques Perroni. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Yves. Bonjour.
Notre météo.
Alors. Ah ben, un peu moins d'intempéries quand même. Oui. Il n'y a plus d'alerte par exemple. Il y a un peu moins de chute de neige. Bon, de la neige, il en reste au sol quand même, avec toujours un risque d'avalanche du côté des Alpes. Mais ça va être un petit peu plus calme. Alors,
ça ne sera pas déclenché par les skieurs. Excusez-moi.
Oui, c'est vrai. Bon, parfois, la nature aussi peut un peu s'énerver. Bon, en tout cas, côté ciel, on va retrouver beaucoup de nuages ce matin, notamment dans la moitié nord, parfois accompagné de quelques brouillards. Dans le sud, on a déjà quelques éclaircies près de la Méditerranée, mais des brouillards un peu plus denses du côté de Auch, Aurillac, Bordeaux, Cognac et Dax. Des brouillards givrants, parce que dans le sud, les températures sont largement négatives. Cet après-midi, dans la moitié nord, toujours beaucoup de nuages et peut-être une éclaircie quand on aura de la chance. On attend quelques nuages un peu plus denses sur la Bretagne avec quelques pluies, mais dans le sud, de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée, là, ça sera franchement plus lumineux, avec l'aide du Mistral et de la Tramontane autour du Golfe du Lion. Les températures ce matin, ben, encore proche de 0 degré, hein, c'est toujours l'hiver, des gelées assez marquées dans le sud, on descend même jusqu'à moins 10 à Chamonix. Ah oui. Et cet après-midi, eh bien 3 à 6 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est, ça reste hivernal, mais ailleurs, 6 à 9 degrés en général, c'est déjà un peu plus doux ou un peu moins froid, et 11 à 14 degrés même près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous d'écouter RTL. Il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 18 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors bon, on s'est entraîné ce week-end au couvre-feu dès 18h, mais c'est aujourd'hui que les ennuis commencent avec la galère des enfants à récupérer à l'école ou à la crèche et la mise en place d'un protocole sanitaire renforcé dans les cantines scolaires, là où les enfants enlèvent leur masque. Virginie vit à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Elle a 4 enfants et pour l'instant, elle est plutôt dans le brouillard.
Bah, est-ce que les horaires vont être réduits ou, on a entendu aussi que le protocole à la cantine allait changer. En fait, aucune communication par rapport à ça, notamment pour ma fille. L'établissement dans lequel elle est, c'est un établissement de 650 élèves et un réfectoire qui a une taille limitée où ils sont amenés à manger en un quart d'heure chaque jour. Donc il est bien évident que l'aménagement de protocole pour qu'ils soient plus distanciés, etc., on n'y croit pas trop, quoi.
Virginie au micro RTL de Sébastien Rouxel. Notez qu'à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, le maire a décidé d'utiliser une possibilité de dérogation dans le domaine de l'enfance. Donc dans les crèches et les garderies, les parents auront toujours jusqu'à 18h45 pour venir chercher leurs petits. Le couvre-feu, c'est aussi un coup dur pour les commerçants, car la tranche 17h-20h représente 20 à 30% de leur chiffre d'affaires. Mais pour la plupart, ils s'adaptent, ils se réorganisent, en vue notamment du début des soldes mercredi. Et du coup, l'opération devrait être assez indolore. C'est ce que dit Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France.
Finalement, ça n'aura pas un impact significatif exagéré. Il y a une forme de réorganisation. Les commerçants doivent s'adapter. Ils ont ouvert entre midi et deux. Ils ont ouvert à 8h30 au lieu de 9h15. Ouais. Et nous avons demandé les ouvertures de tous les dimanches en janvier et pourquoi pas au mois de février.
Francis Palombi avec Vincent Parisot. Sur le front de la vaccination, gros coup d'accélérateur aujourd'hui. Désormais, les plus de 75 ans qui vivent à la maison et les personnes gravement malades peuvent aussi se faire vacciner. Plus de 7 millions de personnes en tout, dans plus de 800 centres de vaccination qui sont ouverts désormais dans toute la France. Pour prendre rendez-vous, il faut aller sur santé.fr ou directement sur les plateformes type Doctolib. Il y a aussi le numéro vert 0800 009 110.
L'opération Pièce Jaune 2021 débute aujourd'hui en partenariat avec RTL.
Comme chaque année, il s'agit de collecter des fonds pour les enfants et les adolescents à l'hôpital. Mais avec la pandémie, il y a quelques petits aménagements. Un pas de tirelire cette année, uniquement des dons sur Internet ou par téléphone. Aux côtés de Brigitte Macron, le parrain de cette édition 2021, c'est Didier Deschamps. Deschamps qui était l'invité du journal Inattendu samedi sur RTL.
Ces enfants, ils sont un exemple de courage, de générosité. Ils se plaignent jamais, ils ont toujours le sourire, alors que nous, tout à chacun, hein, on est en train de se plaindre pour un oui et pour un non. Ça permet de relativiser beaucoup de choses.
Donc vous pouvez dire que cette opération piège jaune aura changé votre vie?
Oui, et c'est de faire en sorte de pouvoir améliorer surtout la leur, parce qu'ils en ont vraiment besoin.
Didier Deschamps avec Ophélie Meunier dans le journal Inattendu. Pour faire un don, rendez-vous sur don@fondationhopitaux.fr ou envoyez don, D-O-N, au 92-111. Le Conseil français du culte musulman a validé hier soir la charte des principes de l'islam de France. Elle consacre notamment le principe d'égalité homme-femme et le rejet de l'islam politique. Emmanuel Macron réclamait ce texte dans le cadre de la loi contre le séparatisme. L'examen commence aujourd'hui à l'Assemblée. Dans les Vosges, un skieur est toujours porté disparu après une coulée de neige sur le versant alsacien du Honeck qui culmine à plus de 1300 mètres. Les recherches ont été interrompues pour la nuit, mais elles doivent reprendre ce matin. Son compagnon de randonnée, lui, a été retrouvé vivant sans blessure grave. À l'étranger, c'était écrit, hein, dès son atterrissage sur le sol russe, hier soir, Alexei Navalny a été arrêté. On lui reproche d'avoir violé les conditions d'une condamnation de 2014. Le principal opposant à Vladimir Poutine arrivait d'Allemagne où il était soigné ces derniers mois après un empoisonnement au Novitchok. Les États-Unis, l'Europe et la France réclame sa libération immédiate.
RTL 7h33, le foot et Lyon qui tombe de son trône.
Oui, l'OL a été battu 1-0 par Metz à domicile et cède donc la place de leader à Paris. Une défaite bien amère pour le défenseur lyonnais Léo Dubois.
On est forcément très déçu. Je souhaitais qu'on reste le plus longtemps possible premier. Maintenant, on ne l'est plus, en tout cas ce soir. Il va falloir qu'on reste à portée de nos adversaires devant nous. On a perdu, c'est une défaite qui nous fait prendre conscience que rien n'est acquis, rien n'est facile. On reste ambitieux et on va essayer de gagner la semaine prochaine.
Léo Dubois au micro RTL de Raphaël Vantard. Lille est toujours deuxième dans ce championnat et est désormais deuxième dans ce championnat grâce à une victoire 2-1 sur Reims. Pour le reste, Rennes l'a emporté à Brest 2-1. Victoire de Bordeaux à Nice 3-0. Match nul 1 partout entre Nantes et Lens et Strasbourg a battu Saint-Etienne 1-0. Et puis, c'est une légende de la pop musique qui vient de disparaître. Spector, producteur mythique, on lui doit notamment le dernier album des Beatles, Let It Be. C'était aussi un personnage sulfureux, il est mort en prison, il avait 81 ans. À New York pour RTL, Lionel Gendron.
Les morceaux enjoués qu'il a produits comme Be My Baby des Ronettes, dont il épousera la chanteuse, cadrent mal avec la dureté du personnage. Spector, cheveux hirsutes, visage anguleux, était aussi talentueux que redouté. Il aimait autant jouer avec les nouvelles techniques musicales qu'avec les armes à feu. La liste de ses succès est longue, Ike et Tina Turner, Leonard Cohen, mais aussi le dernier album des Beatles, le majestueux Let It Be. Phil Spector a inventé ce que l'on a appelé le mur de son, c'est-à-dire superposer différents instruments et en tirer une cohérence. Mais il était aussi connu pour son génie que pour ses frasques. Sa dernière fut fatale. En 2009, il est condamné à 19 ans de prison pour le meurtre d'une comédienne de second rang, Lana Clarkson. Phil Spector dira qu'elle s'est tirée elle-même une balle dans la bouche, le jury n'y a pas cru. Le producteur a fini ses jours dans une prison de Californie, de mort naturelle, selon le communiqué.
C'était le Tout Info avec Isabelle Choquet. On aime bien Get Back aussi, hein, avec les Beatles. On va se retrouver à 8h40 pour la face cachée de la Une, Isabelle.
Oui, précisément, on va revenir sur les années noires de Phil Spector, celles où ses démons l'ont rattrapé.
À tout à l'heure. Il est 7h36. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Vous revenez ce matin sur le mariage avorté, finalement, de Carrefour et de Couche-Tard, le Canadien.
Oui, dans un mariage, qui est l'officier qui effectue l'union?
L'officier d'état civil, normalement?
Non, c'est monsieur le maire.
Après...
Eh bien là aussi, c'est Monsieur le maire, mais Bruno le maire, ah oui. Il a dit non, on va essayer de comprendre pourquoi.
Eh ben vous nous expliquez tout cela dans un instant, c'est l'Angle Écho.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est très exactement 7h38. L'Angle Écho avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Le Canadien Couche-Tard renonce donc à racheter les supermarchés Carrefour après un non tout à fait explicite du gouvernement français.
Oui, l'hostilité au projet a été déclarée sans embâge, à deux reprises par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, avec un argument, la souveraineté alimentaire de la France, c'est-à-dire la protection de nos intérêts.
Est-ce que cet argument est fondé?
Il est fondé juridiquement. Il y a, depuis quelques semaines, en France, un décret qui autorise le gouvernement à s'interposer s'il considère que la distribution de produits agricoles est en péril ou menacée. Un texte qui a été voté à l'unanimité par les députés qui l'ont examiné. Je dirais ensuite que l'initiative a aussi une motivation politique. Voir partir un nouveau champion français sous pavillon étranger à 18 mois d'une élection présidentielle, c'est pas idéal. Surtout s'il s'agit du premier employeur privé en France.
Mais sur le fond, y avait-il un vrai risque pour nos assiettes et pour nos emplois ?
Écoutez, par définition, un supermarché, ça n'est pas délocalisable, bien sûr. Quant à l'emploi, bon, il y a des menaces dans la grande distribution à cause de la montée en puissance du digital, de la perte de vitalité des hyper, qui est un format un peu en déshérence, mais ça vaut dans tous les cas de figure. En revanche, l'approvisionnement des rayons est délocalisable. On pouvait redouter que le nouveau propriétaire canadien ne développe la vente en France de produits canadiens, au détriment des productions françaises. C'est vrai qu'il y a un accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada qui facilite les exportations du Canada depuis peu, qui a inquiété d'ailleurs les producteurs français. Et Carrefour, bah, c'est quand même 20% des achats alimentaires français.
Alors, pourquoi, l'autre question, pourquoi les propriétaires actuels voulaient-ils vendre ?
L'un, les Galeries Lafayette, est en situation financière pas facile, à cause du coût terrible qu'a porté l'épidémie aux grands magasins. Les touristes étrangers, chinois en particulier, principaux clients du boulevard Haussmann, ont disparu. L'autre actionnaire important, c'est Bernard Arnault, le fondateur et patron de LVMH. Il a perdu beaucoup d'argent avec Carrefour, parce qu'il a acheté sa participation il y a 15 ans, beaucoup plus cher que ce qu'elle vaut aujourd'hui. Couche-Tard offrait une occasion pour sortir en limitant les dégâts.
Alors ça veut dire que ces actionnaires ne raisonnent qu'en fonction de leur intérêt propre ?
Oui, j'allais dire
normal, hein.
Comme tous les acteurs économiques. Voilà. Et c'est pour ça que Bercy leur a rappelé plusieurs choses. D'abord, l'État a fait quand même pas mal pour eux, avec le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, et puis un coup de main diplomatique pour LVMH. Lors de son rachat de l'américain Tiffany, on en avait parlé ici, coup de main qui lui a permis à LVMH de renégocier son prix à la baisse. Bon, on peut difficilement appeler l'État à la rescousse et puis se plaindre de ses interventions.
Alors du coup, est-ce que Carrefour est sauvé ?
Le rachat ne se fera pas avant la présidentielle. Les deux entreprises étudient désormais des coopérations. Le problème, c'est que Carrefour, du coup, reste avec deux actionnaires qui n'ont pas les moyens ou pas l'envie d'investir.
Oui.
Alors que Couche-Tard voulait mettre 3 milliards d'euros sur la table pour accélérer la transformation. De plus, l'entreprise est aujourd'hui invendable parce que tout acquéreur étranger potentiel sait qu'il trouvera l'État sur sa route.
Oui.
En résumé, Carrefour reste français, tant mieux, mais il reste aussi avec ses problèmes et c'est moins bien.
C'est très clair. Merci beaucoup François Langlais. On se retrouve demain matin et bien entendu d'ici là sur le site rtl.fr. J'en profite pour annoncer à nos auditeurs que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, sera l'invité d'RTL ce soir à partir de 18h et vous pourrez l'interpeller et lui poser toutes vos questions au standard. Rendez-vous donc ce soir avec Thomas Soto dès 18h sur RTL. Il est 7h41. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, pédiatre immunologiste. Beaucoup de questions demeurent sur les vaccins et la campagne de vaccination, même si les Français y adhèrent de plus en plus.
A tout de suite avec Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
Bonjour Alain Fischer.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. L'agence norvégienne du médicament a établi un lien entre au moins 13 décès et les effets secondaires du vaccin Pfizer. Alors certes, il s'agissait de personnes âgées de plus de 80 ans à la santé très fragile. Mais immédiatement, on se dit, est-ce que nous devons nous inquiéter pour nos aînés et est-ce qu'il faut stopper la vaccination dans les EHPAD ?
Il faut bien avoir conscience que, malheureusement, mais c'est inéluctable, chaque jour, il y a de très nombreux décès dans les maisons de retraite et dans les EHPAD spécifiquement. En France, de l'ordre de 400. En Norvège, de l'ordre, si on rapporte à la population, de plusieurs dizaines. Donc, lorsqu'il y a des événements de décès qui surviennent dans la journée qui suivent une vaccination, ils pourraient en théorie être dus à la vaccination, mais ils ont une beaucoup plus grande probabilité d'être dus à l'évolution naturelle de la vie et des maladies que présentent ces gens. Les informations que nous avons sont que ces personnes étaient extrêmement faibles, avaient, comme on dit, de multiples comorbidités, certains étaient en soins palliatifs. Donc, bon, ce sont beaucoup d'éléments qui laissent penser plutôt que le vaccin n'est pas impliqué, d'autant qu'il n'y a pas d'autres, entre guillemets, d'autres nouvelles, d'autres signaux de ce type, émanant d'ailleurs, ni de France d'ailleurs. Cela dit, comme il se doit. Ce type d'information est prise au sérieux. Ces données sont analysées, bien sûr, par les autorités norvégiennes, mais aussi par l'Agence européenne du médicament. Je sais que en France, l'Agence nationale de sécurité du médicament, dirigée par Mme Ratignier, suit ça de très très près, avec des services qui sont mobilisés sur ces questions. Donc je pense qu'il faut simplement poursuivre la vigilance, mais remettre dans le contexte ces événements, et certainement pas, pour l'instant, modifier quoi que ce soit à une politique de vaccination qui est hautement bénéfique.
Oui, il faut préciser que les effets secondaires étaient de la fièvre et des nausées. Il y a un autre sujet qui inquiète Alain Fischer. Le variant sud-africain serait, selon certains biologistes, indétectable au test PCR. D'abord, est-ce que vous le confirmez ?
Apparemment, oui. Après, on peut rentrer dans la technique. Il y a différentes façons de faire des PCR, mais dans les tests de PCR usuels, du moins, oui.
Est-ce que ça veut dire que les vaccins actuels ne seront plus efficaces dans quelques semaines ?
Non, il ne faut pas s'alarmer à ce point, même s'il est à nouveau légitime de se poser des questions. Je vais répondre d'abord, si vous le voulez bien, à travers ce que l'on sait du variant britannique, qui est celui qui circule plus que le variant sud-africain sur le territoire français, pour lequel des tests dont on a les informations, sur lesquels on a les résultats, indiquent que les anticorps produits par les personnes qui ont été vaccinées reconnaissent toujours bien ce variant et le neutralisent de façon identique à des virus classiques dans des tests faits au laboratoire. Les données sont moins complètes pour le variant sud-africain, il faut attendre un tout petit peu. Évidemment, c'est un point de vigilance. En même temps, il faut savoir que les réponses immunitaires, c'est assez bien fait, le système immunitaire, sont très diverses. Que même si on perd un déterminant, il en reste beaucoup d'autres.
Mais vous comprenez qu'on soit quand même inquiet, parce que on entend dire que Pfizer est en train d'adapter ses chaînes de production. Mmh. Alors voilà, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'à un moment, ces vaccins, ils vont être caducs, obsolètes ?
On n'en est vraiment pas là. Je pense qu'il faut d'abord, avant d'émettre des inquiétudes ou se poser des questions, ce qui est évidemment légitime, il faut d'abord se réjouir. Excusez-moi, mais...
Mais vous avez raison, oui.
Il faut se réjouir, parce qu'on...
Mais on a quand même des questions.
Bien sûr, comme je dis, mais il faut rappeler que quand même, en une année, une petite année, a été mis au point plusieurs vaccins, selon des stratégies différentes, ce qui est un événement unique dans l'histoire de la biologie et de la médecine, et qu'il faut s'en réjouir, et il y a un an, qui aurait parié que nous en serions là aujourd'hui. Maintenant, il y a des adaptations, des questions, les choses ne sont pas fixées une fois pour toutes et la vaccination va progresser.
Alors aujourd'hui, les plus de 75 ans ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques vont pouvoir se faire vacciner. Et là, il faut que vous m'aidiez à résoudre une équation quand même.
Oui.
Parce que d'ici à la fin février, on aura vacciné au mieux, dit Olivier Véran, 4 millions de personnes.
Oui.
Sauf que si on additionne les résidents en EHPAD, les handicapés, les soignants, les pompiers, les aides à domicile de plus de 50 ans, les plus de 75 ans, les maladies chroniques, on est à 6,4 millions. Mm-hmm. Alors comment on fait ?
On prend le temps nécessaire. Ça commence aujourd'hui et c'est aussi une très bonne nouvelle que cela commence aujourd'hui, que les personnes dont vous avez rappelé les caractéristiques d'âge ou de maladie puissent être vaccinées. Mais il faut aller au plus vite, au mieux, mais en prenant le temps, en s'adaptant aux vaccins disponibles. Donc ça veut dire que ça ira un peu plus loin que ce que vous avez dit. Et le message très important à indiquer à toutes les personnes concernées, c'est qu'elles peuvent commencer à être vaccinées, mais que leur vaccination n'aura pas forcément lieu cette semaine. Elle aura lieu en février ou fin février, en fonction des circonstances, pour permettre que progressivement, ces 6-7 millions de personnes puissent être toutes vaccinées, ce qui permettra de gagner beaucoup de vies.
Mais est-ce qu'on a les doses ? Vous savez, Arnaud Fontanet l'a dit au grand jury hier, grand jury RTL, il y a une urgence. On s'attend à une forte progression de l'épidémie en mars-avril. Donc là aussi, il y a quelque chose qui nous paraît un peu incohérent. On nous dit il y a urgence et en même temps, on n'a pas les vaccins.
Il y a bien sûr qu'il faut vacciner au plus vite.
Il y a de plus en plus de monde, mais on n'a pas les vaccins.
La vaccination dépend de la production des vaccins. C'est vrai pour la France, comme c'est vrai pour la communauté européenne avec laquelle la France agit en termes d'achat de vaccins, mais c'est vrai pour le monde entier. Évidemment, il y a l'incitation à la plus forte production possible, pour ce qui est de la communauté européenne, à se procurer et acheter la plus forte quantité possible de vaccins, mais au-delà, il faut rester dans le réel, des possibilités de vaccination. On sait que les capacités mondiales de production ne sont pas telles qu'elles permettent de vacciner toute la population du globe au cours de cette année. Donc il y a urgence, mais il faut vivre avec un principe de réalité, c'est quelles quantités de vaccins sont disponibles, en faisant tout ce qu'on peut pour qu'un maximum soit produit, un maximum soit distribué, mais avec, encore une fois, la nécessité de s'adapter à la situation.
On aurait dû acheter plus de doses ?
Mais on ne peut pas acheter plus de doses. Il me semble, hein, je ne suis pas un expert de l'achat.
De la production ?
Oui, parce qu'il y a une certaine quantité de vaccins produites à l'échelle mondiale, et une partie part évidemment en Amérique, en Asie, enfin dans le monde entier, sauf que les pays pauvres sont malheureusement beaucoup moins bien servis, c'est un problème important qui peut rejaillir sur nous dans un second temps. Donc l'Europe a, je pense, négocié très très ardemment l'achat de vaccins, a obtenu un nombre important de doses, mais qui in fine permettra de vacciner beaucoup de monde, mais progressivement, et on attend bien sûr pour cela la validation et la mise sur le marché d'autres vaccins.
Alors, mais savez-vous quand le vaccin AstraZeneca sera disponible ?
Le vaccin AstraZeneca, il est en train d'être évalué comme il se doit très sérieusement par l'Agence européenne du médicament pour ce qui nous concerne. On attend une réponse de l'Agence européenne du médicament à la fin du mois. Donc, si leur appréciation est positive, il sera disponible en février. Évidemment, ça sera une très très bonne nouvelle, mais il faut qu'il soit évalué. On reprocherait globalement au système une défaillance si la rigueur de l'évaluation de l'efficacité, de la sécurité, de la qualité du produit n'était pas menée comme il faut.
Est-ce que vous confirmez que Sanofi va mettre ses chaînes de production à la disposition d'autres laboratoires ?
Je pense que c'est une décision logique qui permettra justement d'amplifier la production de vaccins en attendant qu'eux-mêmes produisent leurs propres vaccins.
Alain Fischer, vous disiez dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France au week-end que peut-être il faudra un jour vacciner les enfants. À votre place, vendredi, était présent le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, qui a déjà lancé une étude sur les 12-17 ans, dont il aura les résultats au printemps. Mm-hmm. Il nous disait si on pouvait vacciner les plus jeunes dans l'été, ils pourraient faire leur rentrée plus sereinement, la rentrée scolaire de septembre prochain. Vous le rejoignez là-dessus ?
Mon point était lié aux variants britanniques, parce que les données venant de Grande-Bretagne sont que, semble-t-il, ce variant est plus présent chez les enfants que ne sont les formes classiques du virus et provoque plus d'infections, même si elles ne semblent pas plus sévères. Il faut être rassurant sur ce point. Mais du coup, on peut se poser la question de savoir aussi si les enfants ne seront pas plus appliqués dans la chaîne de transmission du virus. C'est dans cet esprit-là que, si ces données se confirment, si, il y a toujours beaucoup de conditionnels, ce variant prend de l'ampleur dans la pandémie, il pourrait à un moment donné devenir logique de vacciner les enfants. C'est pas tout à fait avec le même état d'esprit, même si je comprends cette logique, mais il y a d'autres priorités quand même avant, en termes, on en parlait tout à l'heure, de vacciner les plus fragiles et ensuite les populations un petit peu moins âgées.
Vous avez vu que de plus en plus de Français sont favorables au vaccin, et plus étonnant, ils sont même de plus en plus favorables au passeport vaccinal. Est-ce que vous pensez que c'est le moyen de permettre aux gens de circuler, de voyager, d'aller au restaurant, de reprendre une vie, on va dire, presque normale, ce passeport vaccinal, ce certificat ?
D'abord, je me réjouis que de plus en plus de Français soient favorables à la vaccination, mais il en reste quand même encore un certain nombre qui ne le sont pas, et un travail très important de pédagogie est à faire, auquel nous vont tous participer, y compris vous, les médias. Et en ce qui concerne le passeport, je pense que la question est au moins prématurée, si ce n'est plus, pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps une personne vaccinée est protégée. On sait que c'est 2-3 mois, c'est sûr, c'est ce qui a été montré dans les études cliniques. On espère que c'est plus, bien sûr, mais on n'a pas la preuve. On n'a pas la démonstration, loin de là, malheureusement, même si on l'espère, que le fait d'être vacciné bloque, évite la transmission du virus à quelqu'un d'autre. Donc on pourrait imaginer quelqu'un qui est le passeport, entre guillemets, mais qui continue de contaminer. Enfin, on n'a pas offert la vaccination, on en parlait tout à l'heure, à toute la population. Donc ça serait créer vraiment une situation d'injustice incroyable. Et on peut même ajouter qu'on peut s'interroger sur le plan éthique de la pertinence d'un tel passeport.
Aujourd'hui, plusieurs prix Nobel vont être vaccinés. Ça, c'est pour montrer l'exemple ?
Absolument, ce sont des prix Nobel âgés de plus de 75 ans, il faut évidemment le mentionner.
Tous français ?
Français, oui, ça c'est une organisation à l'échelle française. C'est un symbole bien sûr, mais c'est le symbole d'abord de la science. C'est la science qui permet de faire des progrès. Et puis c'est indiqué à chacun que cette option qui a été prise et qui est développée de façon évidemment la plus intense possible depuis quelques semaines est la bonne pour sortir de cette pandémie et de tout ce qu'elle entraîne.
Et vous n'avez que 71 ans, vous n'êtes pas encore prix Nobel, mais vous êtes fait vacciner.
Je suis la bonne raison, soyons sérieux, c'est que je suis professionnel de santé. Je vois encore des patients, y compris des patients qui sont immunodéprimés, qui sont fragiles et qui expliquent pourquoi j'ai été vacciné.
Merci professeur Alain Fischer.
Merci.
Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qui confirme l'efficacité du vaccin même face au variant anglais, qui confirme aussi que le variant sud-africain serait indétectable pour l'instant au test PCR. Concernant le passeport vaccinal, il soulève des problèmes d'éthique, vient de nous dire Alain Fischer. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.fr. Et dans un instant, c'est Cyprien Signy qui surfe avec la neige. A tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
Nous surfons ce matin avec les quelques flocons tombés sur Paris pendant le week-end.
Oh, quelques flocons, comme vous y allez. Quel week-end, dis donc. Je peux vous dire qu'à Paris, on a tremblé un samedi matin en écoutant les infos, comme si l'apocalypse allait s'abattre sur la capitale.
Va-t-il neiger? Et surtout, est-ce que ça va tenir au sol?
Oui, sans doute.
Et combien de centimètres? On part à la chasse aux flocons.
Paris sera touché sans doute à partir de 11h.
La neige est là et elle avance.
À Paris, soyez très prudents.
Attention donc si vous devez sortir de chez vous.
Attention si vous devez sortir de chez vous, Paris sera touché.
Mais pas en Suisse.
C'est apocalypse snow. Des tonnes de neige vont nous s'ensevelir et visiblement, quand il risque de neiger à Paris, on lésine pas sur les moyens.
Ah, nous sommes en guerre.
Des chasse-neige sont mobilisés. On voit déjà des saleuses, des déneigeuses.
Des opérations de salage.
Oui, la capitale est prête pour affronter la tempête. Et la tempête, eh ben, elle a fini par arriver. Hein, et elle nous a pas raté.
Ce sont des petits flocons qui fondent au contact avec le sol. On attend 1 à 3 cm.
Bon, il n'y a pas beaucoup de neige là sur les voies, mais...
Ça tient pas encore sur le sol.
2 cm à Paris, Montsouris.
Oui, bon, ça va, 2 cm, d'accord. Mais à Paris, en fait, c'est pas la même échelle. 2 cm à Paris, ça équivaut à 2 mètres dans le reste de la France. Et oui, bon, 2 cm et puis ça tient même pas au sol, je sais, mais...
Et puis à Paris, ça prend tout de suite des proportions. Hein.
Non, pas du tout le sens de l'exagération, le Parisien, quand il voit de la neige sur les arbres. Prenez ce monsieur, samedi sur BFM, en regardant Montmartre qui dit...
Ça rappelle un peu les paysages des Alpes et des Pyrénées aussi.
Ah oui, ah bah oui, carrément, c'était Chamonix, Montmartre, dites donc. Hein.
On vous retrouve donc dans cette nouvelle station de ski parisienne, on peut le dire, c'est le Sacré-Cœur.
Ah bah oui, hein, finalement, il en faut peu aux Parisiens. Hein. 3 flocons et c'est le bonheur. Et en même temps, c'est vrai que franchement, ça vous change les perspectives, la neige. Hein. Ça rend le monde différent, un peu de poésie, que diable.
La neige, pour moi, a cette qualité de masquer un petit peu les défauts de l'humanité.
Vous savez. Ah oui, c'est beau. Et puis, quel plaisir de voir les enfants heureux.
C'est trop bien d'être dans la neige et que on peut faire des bonhommes de neige, de la luge et tout. Et donc, c'est trop bien.
Mais neige ou pas, les enfants restent des enfants.
Mais tu fais un petit bonhomme de neige, c'est ça?
C'est un ours de neige.
Ouais, c'est un ours de neige, voyons. Bon, et puis, amis parisiens, comme rien qu'avec 2 cm de neige, on a senti quelques difficultés à se mouvoir. Petit conseil du surf de l'info pour ne pas glisser la prochaine fois.
Autre solution, les chaussettes par-dessus les chaussures.
Alors, c'est moyennement esthétique, hein, mais ça glisse moins. Vous voilà donc paré pour affronter la prochaine tempête de neige de 2 cm.
Ça battra sur la capitale.
Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir dans RTL Soir avec Thomas Soto et son invité, Bruno Le Maire. À tout à l'heure. La neige, justement, il est temps d'en parler, ou en tout cas, le temps qu'il fait. Louis,
oui, le temps qu'il fait. Alors, bon, il n'y aura plus de chute de neige à Paris. En revanche, il y aura toujours un risque d'avalanche dans les Alpes parce que là, il y en a eu beaucoup et ça a encore été le cas ces dernières heures. Alors c'est vrai qu'avec ce risque d'avalanche, il faut rester prudent dans les Alpes du Nord. En revanche, côté ciel aujourd'hui, ça va se calmer un petit peu. Beaucoup moins d'averses, plus d'averses de neige. Et on peut même annoncer du temps sec quasiment partout aujourd'hui. Alors certes, avec beaucoup de nuages encore dans la moitié nord, peu ou pas d'éclaircies. Avec un peu de chance, il y en aura peut-être une ou deux. Sur la Bretagne, on attend une nouvelle perturbation cet après-midi avec plus de nuages et quelques pluies. En revanche, dans le sud, de l'Aquitaine au Massif central, des Alpes à la Méditerranée, sur les Pyrénées, là, le ciel sera franchement plus lumineux, très ensoleillé même tout près de la Méditerranée, avec l'aide du Mistral et de la Tramontane, jusqu'à 70-80 km/h. Puis côté température, on a encore des gelées, hein, très marquées dans le sud, on descend jusqu'à moins 10 degrés à Chamonix, moins 4 à Bergerac, à Rodez, moins 3 degrés du côté de Toulouse par exemple. C'est légèrement positif près de la Manche et sur les bords de la Méditerranée. Cet après-midi, 3 à 6 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est, ça reste de saison. 6 à 10 degrés dans les autres régions, là ça remonte un peu, 11 à 14 même près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Bodin, RTL. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Top départ pour la deuxième phase de la vaccination dans notre pays.
Les plus de 75 ans désormais prioritaires, nous serons devant un centre d'Aix-en-Provence. Couvre-feu oblige, les supermarchés ont décidé d'ouvrir beaucoup plus tôt le matin. Reportage à suivre. Et puis avant la prestation de serment de Joe Biden, c'est son chien qui a été officiellement investi hier. On vous dira le pourquoi de cette cérémonie au poil.
RTL Matin.
Au suivant, comme le chantait Jacques Brel, c'est aux plus de 75 ans de recevoir leur dose à partir d'aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, un détour par le champion européen de la vaccination, l'Italie. Là-bas aussi, le principe, c'est chacun pour soi. Enfin, le principe, car dans la seringue, il y a depuis quelques jours un parfum de scandale. 100 000 personnes qui ne sont pas prioritaires, elles ne sont pas âgées, elles ne sont pas personnel soignant, ont pourtant réussi à se faire vacciner. Des pistonnés qui ont fait jouer leur relation, Anne Le Nian.
Parmi ceux qui ont succombé à la tentation des petits arrangements, on trouve même un curé sicilien, Umberto Bonincontro, peu discret, au point d'avoir conclu une de ses homélies en disant aux fidèles qu'ils pouvaient, comme lui, se faire vacciner très vite. Le lendemain, 150 paroissiens se sont rendus au centre de vaccination indiqué par le prêtre. Toujours dans le sud, des dizaines d'épouses de médecins ont été vaccinées en douce. Et dans le nord, des praticiens hospitaliers sont accusés d'avoir utilisé des doses pour immuniser des amis ou des proches. Alors, pour faire respecter les critères de priorité, toute la botte sera surveillée par des carabiniers spécialisés dans la protection de la santé.
Anne Le Nian, notre correspondante sur la botte. Donc, pour l'instant, à notre connaissance, en tout cas, rien de tel en France. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Aix-en-Provence devant l'un des 800 centres de vaccination, un gymnase d'Aix-en-Provence qui s'apprête à accueillir ses premiers clients, entre guillemets. Est-ce qu'il y a du monde ?
Écoutez, les vaccinations vont commencer d'ici une petite heure, à 9h. Elles ont été retardées car bon, c'est le premier jour, hein, il faut s'installer. Alors ici au gymnase du Val-de-l'Arc, hein, je suis avec le docteur Dillinger qui supervise ici la campagne de vaccination pour la ville d'Aix-en-Provence. Alors les vaccinations, donc, je vous le disais, vont débuter à 9h. Docteur, vous attendez votre agent qui est allé à l'hôpital d'Aix retirer les doses qui vont servir aujourd'hui. Tout est fin prêt, ça y est ?
Oui, tout à fait, tout est prêt. Nous avons donc 5 postes de vaccination avec un binôme infirmier-médecin. Nous attendons effectivement les doses et nous sommes en capacité aujourd'hui pour le démarrage à vacciner 288 personnes et nous allons monter crescendo avec un rythme de croisière de 500 à 600 vaccinations par jour.
Alors Aix est une ville de 140 000 habitants environ et 12 500 personnes âgées de plus de 75 ans. Votre planning est complet ?
Complètement, les créneaux ont été pris d'assaut, tout est prêt, mais nous sommes malheureusement tributaires effectivement des doses de vaccins.
C'est votre inquiétude ?
C'est bien entendu mon inquiétude ici à Aix-en-Provence comme partout en France, je le pense.
Le vaccinodrome, si on peut appeler ça comme ça, ouvert tous les jours de 8h à 20h ?
Il est ouvert tous les jours de 8h à 20h, samedi et dimanche compris.
Et ici, ne comptez pas d'avoir de coupe-fil comme en Italie, ça ne marchera pas. Il faut vous inscrire bien sûr avant, ici il est encore temps.
Merci beaucoup Étienne Baudu, en direct d'Aix-en-Provence pour RTL. Plus de 422 000 Français ont déjà reçu une première injection. Ils seront 4 millions au mieux fin février d'après le gouvernement. Il faut aller vite, hein, dit le professeur Arnaud Fontanet qui était l'invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il prévoit une progression de l'épidémie en France pour mars à cause des variants du virus. Il y a encore eu plusieurs fêtes sauvages ce week-end. La police est notamment intervenue à Saint-Martin-d'Air près de Grenoble. 200 personnes réunies dans un hangar. Vous avez peut-être entendu le préfet hier sur RTL. Et puis on apprend ce matin qu'il y a aussi une fête à Strasbourg, 70 participants, 30 fêtards également à Limoges où l'organisateur est en garde à vue.
RTL, il est 8h04, il y a le vaccin mais aussi le couvre-feu pour tenter de freiner les contaminations.
Couvre-feu dès 18h depuis ce week-end partout en France. Les grandes surfaces ont décidé de s'adapter en ouvrant plus tôt le matin. C'est le cas de ce supermarché d'ici les Moulineaux où vous vous trouvez, Valentin Boisset. Il a ouvert à 7h, 1h30 plus tôt.
Oui, quelques clients curieux, parfois avec leur sacoche d'ordinateur, qui ne savaient pas, hein, que ces horaires d'ouverture sont désormais allongés. Ils viennent de l'apprendre en passant devant le store ouvert du magasin. Alors certains sont rentrés faire des courses. Nicolas, le gérant, est plutôt surpris.
À 7h30, on va au travail. Il y a beaucoup de monde.
Ouvrir plus tôt pour permettre à ceux qui travaillent d'éviter le casse-tête des courses avant 18h. C'est le cas de Pascal qui n'a rien acheté de frais car il n'y a pas de réfrigérateur à son bureau. Mais il vient de très loin.
1h30 le matin, 1h30 le soir. Donc ça va pas être possible de faire les courses. Une solution, le matin tôt et puis comme ça on a possibilité de faire les courses un peu plus souvent.
Et au-delà de ce supermarché, c'est le quartier entier qui est un peu plus matinal que d'habitude. Des boulangeries s'ouvrent aussi un peu plus tôt, comme celle de Sandra.
Juste une petite demi-heure avant. On va essayer quelques jours. Si on voit qu'il y a quand même un petit peu de personnes, on va rester comme ça.
Enfin, pour l'anecdote, dans la nuit, une petite affiche est apparue sur la porte du supermarché et de la boulangerie. Une écriture hésitante, mais qui remercie les commerçants pour leur adaptabilité et leur disponibilité pendant la pandémie.
Merci beaucoup Valentin Boisset. Les grandes surfaces s'adaptent, les restaurants aussi, enfin ceux qui le peuvent, hein, ils sont fermés, vous le savez, depuis le 29 octobre, mais un tiers d'entre eux continuent à travailler malgré tout, comme ce resto du 17e arrondissement de Paris qui va louer une de ses cuisines à une enseigne de livraison. Écoutez ce reportage de Lucille Bess.
Un seul établissement, mais deux cuisines. Chez Maison Lacaille, il y a le côté restaurant qui continue à faire des plats à emporter.
On fait des Saint-Jacques poêlés, des glacés avec un jus au cresson. Là.
De l'autre côté de la rue, il y a une deuxième cuisine dédiée à l'activité traiteur du restaurant. Elle est vide pour le moment, mais ça ne va pas durer. Julien est le gérant des lieux.
Ce qui loue, c'est une dark kitchen qui vont lancer des burgers pour une période de 6 mois. C'est une bonne chose pour la crise parce que le traiteur est, lui, à 96% à l'arrêt depuis le 16 mars.
Une opération qui lui permet d'empocher 2600 euros par mois.
C'est une aide hyper importante, c'est même une très bonne solution. Ça nous a permis d'amortir une partie de notre loyer, mais ça ne prend non plus pas tout en charge.
Pour les enseignes de livraison, c'est aussi un pari gagnant. Édouard Ossegui est le cofondateur de Light Kitchen.
Pour rentrer dans une cuisine, sur du long terme, on est à peu près entre 2000 et 4000 euros d'investissement, VS, une agence immobilière classique ou un fonds de commerce qui va être entre 15 et 20 000 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros.
La plateforme est née il y a 3 mois et elle propose déjà un catalogue de 400 cuisines partout en France. Une quarantaine sont occupées pour le moment.
Reportage signé Lucille Bess. Et peu importe le contexte, le guide Michelin qui récompense les meilleurs restaurants sort aujourd'hui comme si de rien n'était. Il aura eu à peine 6 mois l'an dernier pour trouver ses perles rares.
On peut rêver.
En Israël, les autorités cèdent finalement aux ONG et aux demandes répétées de la justice. Tous les prisonniers vont être vaccinés, y compris les plus de 4000 détenus palestiniens. Le gouvernement s'y était d'abord opposé.
Dans un instant, gros plan sur la future star de la Maison Blanche, un chien. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. C'est une grosse semaine qui commence à Washington, Jérôme.
Joe Biden sera officiellement investi mercredi et dans la foulée sera lancé le second procès en destitution de Donald Trump. Mais c'est un autre événement qui a intéressé hier les Américains, la cérémonie d'investiture de Major. C'est le chien adopté par Joe Biden.
Oui, c'est le refuge dans lequel Major a été adopté qui a eu l'idée de cette cérémonie sur Internet.
Hello and welcome everyone to the first ever inauguration celebration.
Bienvenue à l'inauguration, contraction en anglais de chien et investiture. Car Major, âgé de 3 ans, le plus jeune des deux bergers allemands de Joe Biden, est le premier chien à passer d'un refuge à la Maison Blanche. Alors l'association a diffusé photos et vidéos de Major quand il était petit, la vidéo de Joe Biden quittant le refuge en 2018 avec son chien en laisse.
Thank you. Congratulations, my Major.
Et enfin, Josh Groban, chanteur américain, a interprété un titre sur l'adoption.
I'm adopting that doggy.
L'arrivée de Major, c'est aussi le retour des chiens à la Maison Blanche. Après Beau et Sunny, les deux chiens d'eau portugais d'Obama, le Scottish Terrier de Bush, le Labrador de Clinton, Donald Trump n'en avait pas voulu une première pour un président depuis un siècle. Alors Joe Biden renoue avec la tradition. L'artiste Josh Groban a conclu la cérémonie par ce jeu de mots.
Dog bless America.
Dog bless America. Que ce chien bénisse l'Amérique.
Everybody, I'm adopting that doggy.
Voilà, Dog Bless America. Merci beaucoup Brice Dugénie. Une première en France, la Bourse de Paris va être dirigée par une femme à partir du 15 mars. Delphine Damarzit, spécialiste des marchés de capitaux, a été nommée ce matin. Cette énarque de 47 ans a notamment travaillé au cabinet de François Fillon lorsqu'il était Premier ministre.
L'incendie spectaculaire de Notre-Dame de Paris, bientôt porté sur grand écran.
Par Jean-Jacques Hano, le réalisateur notamment du Nom de la Rose. Le tournage va commencer le 7 mars pour une sortie prévue l'an prochain. Le cinéaste est l'un des rares civils à avoir pu pénétrer dans la cathédrale partiellement détruite par les flammes en avril 2019.
Il faut se déguiser en cosmonaute, il faut enlever tous ses vêtements, mettre des vêtements qu'on va jeter après, ainsi que des bottes qui vont être jetées, en faisant très attention, parce qu'on ne peut pas marcher partout, il y a des filets, parce qu'il y a encore des trucs qui tombent tous les jours. Ça reste un bâtiment fragile et actuellement, ça c'est même quasiment impossible maintenant d'y retourner. J'y suis allé 3 fois déjà et 2 autres fois à l'extérieur, mais aussi en tenue plomb. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que dans certains axes, on a l'impression que rien ne s'est passé. Il y a tout un tas d'endroits qui sont intacts. Puis dans d'autres axes, c'est un désastre. C'est la guerre.
Jean-Jacques Hano avec Stéphane Boutsock. Le film ne sera évidemment pas tourné dans Notre-Dame. Hein. Les décors ont été construits ailleurs.
Et nous reviendrons sur ce tournage spectaculaire dans Laissez-vous tenter à partir de 9h avec Jean-Jacques Hano et Stéphane Boutsock.
En football, la fête est finie pour Lyon. L'OL a perdu sa première place en Ligue 1 après s'être fait surprendre à domicile par Metz 1-0. Le PSG reprend la première place devant Lille qui a battu Reims 2-1. Les autres scores de la soirée, la victoire de Rennes 2-1 contre Brest, 1 partout entre Nantes et Lens, 3-0 pour Bordeaux contre Nice. Enfin, Strasbourg a battu Saint-Etienne 1-0. Et puis, il a traversé pour toujours le mur du son. Phil Spector est mort hier à 81 ans en prison où il purgeait une peine pour meurtre. Il avait façonné des dizaines d'albums pour Tina Turner, pour les Beatles, pour Leonard Cohen, avec ce son unique fait de réverbération, ce fameux Wall of Sound, le mur du son, comme sur ce titre de John Lennon.
Avec John Lennon, c'était le journal. Présentez-vous. De Jérôme Florin, écoutez, je voulais voir s'il était attentif à son propre nom. Allez, à demain matin.
Ah oui, je crois.
C'est bien moi-même, et c'est Jean-Mathieu Pernin qui arrive.
9h30.
Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
On fait un tour du côté des intox et des fausses informations avec vous. Aujourd'hui, non, Morissette, oui. Très important, n'est pas décédé des suites de l'injection du vaccin Pfizer contre le Covid-19.
Et oui, Morissette, la question se pose, donc. Morissette, et oui, 78 ans, vous vous en souvenez, est rentré dans l'histoire tout de même le 27 décembre dernier en étant la première vaccinée contre le Covid en France. C'était il y a 3 semaines, mais depuis... Eh bien, qui est devenue Morissette? Non, parce que c'est vrai, ce week-end, sur les réseaux sociaux, la question est devenue récurrente, des messages très nombreux comme « Morissette, il y a des rumeurs pas cool, on s'inquiète ». Ou alors, plus vindicatif, « Twitter a supprimé mon tweet sur Morissette où je demandais si elle était vivante. Pourquoi aurais-je mis le doigt là où ça fait mal ?» Oui. D'un coup, tout le monde voulait des nouvelles de Morissette. Alors, un peu comme si la première vaccinée de France avait une mission, celle de nous informer de son état de santé quotidiennement. En fait, à quoi s'attendait-on? Qu'elle apparaisse tous les jours au balcon de son immeuble? Et puis, pourquoi craindre seulement pour la vie de Morissette et pas pour la vingtaine autres de personnes vaccinées ce jour-là? Alors, l'assistance publique hôpitaux de Paris, la PHP, a démenti bien sûr cet intox, a expliqué que Morissette va bien. Mais comme une mauvaise toux, l'intox persiste.
Bon, c'est une fausse information qui a beaucoup fait réagir, évidemment.
Oui, elle a été très vite démontée, notamment par le journal Libération, qui a remonté la trace de cette rumeur et retrouvé le compte Twitter qu'il avait lancé. Il s'agit d'un message, en fait, datant du lendemain de la vaccination de Morissette, soit le 28 décembre. Et depuis, ce même compte a avoué avoir menti, tout en continuant à proférer des messages anti-vaccins. Alors, une intox, une de plus, qui aurait pu s'arrêter là, mais là où la chose est intéressante, c'est qu'elle a été dénoncée d'une manière assez forte, assez puissante par des personnalités. En premier, le maire de Sevran, commune où Morissette a reçu son injection. Oui. Il a été le premier à réagir sur les réseaux sociaux en évoquant une fake news pitoyable. Plus tard dans la soirée sur Twitter, c'est Martin Hirsch qui évoque le travail des journalistes vérifiant ces informations irrationnelles et dénonce celle autour de Morissette. Et auparavant, c'est vrai qu'une fausse information vivait sa vie, n'était pas toujours dénoncée. Le contexte du Covid et la défiance envers le corps scientifique ou les médias, eh bien, font désormais monter au front des personnalités qui n'hésitent plus à briser le cercle de contamination de l'intox. Régulièrement, on entend Olivier Véran qui dénonce les fake news en public, comme récemment, eh bien, une prime au Covid dans les hôpitaux ou un délai de rétractation de 5 jours une fois qu'on a donné son accord pour être vacciné, c'est faux. Ou même eh bien notre collègue Michel Simès qui l'a fait dans une vidéo. Comme la vaccination, il est important pour l'exemple que des personnalités s'engagent pour dénoncer la désinformation, non pour la santé publique, mais pour la bonne entente publique.
Les intox sur les premiers vaccinés fleurissent dans le monde entier.
Oui, c'est déjà le cas de Margaret Kenan, 90 ans, première vaccinée contre le Covid au monde le 10 décembre dernier, annoncée morte tous les deux jours en fait, et qui se porte bien. Même chose pour Tiffany Dover, infirmière américaine, prise d'un malaise quelques minutes après avoir été vaccinée devant les caméras fin décembre. Une chute de tension qui n'a rien à voir avec l'injection du sérum, mais interprétée comme telle. Presque tous les pays connaissent le même genre d'intox qui n'ont aucun fondement. Et malheureusement, toujours pas de vaccin contre ces fausses informations.
Merci Jean-Mathieu Pernin. On retrouve tout de suite notre brigade.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Il est 8h16. 2 milliards 300 millions de doses commandées par l'Union européenne. Aujourd'hui, seuls les vaccins de Pfizer, BioNTech et Moderna sont donc disponibles en attendant AstraZeneca à la fin du mois. On a eu de bonnes nouvelles de Pfizer. Le rythme de livraison redeviendra normal à partir de la semaine prochaine. Bonjour Bénédicte Tassin.
Bonjour, bonjour tout le monde.
On rappelle que même si Pfizer produit un peu moins en ce moment, le labo ne va pas choisir le pays qu'il va livrer en priorité.
Ah non, de toute façon, les doses sont réparties entre les 27 en proportion de leur population. Et pour bien le vérifier, à partir d'aujourd'hui et deux fois par semaine, les États membres devront indiquer à Bruxelles combien de doses ils ont reçues. Après, si un pays décide qu'il ne veut pas, par exemple, du vaccin Pfizer, qu'il préfère attendre l'AstraZeneca parce qu'il le trouve plus facile à administrer, eh bien son quota Pfizer est à nouveau divisé au prorata entre les autres nations.
Mais un pays de l'Union européenne peut-il passer des contrats directement avec les labos ?
Alors, les contrats parallèles ne sont pas acceptés. C'est même inscrit dans l'accord entre les 27, article 7. On sait que l'Allemagne a signé des conventions à part, en solo, mais ces livraisons auront lieu après les livraisons européennes. Nos fioles arrivent en premier, assure la Commission européenne. Autre cas, la Hongrie est intéressée par les vaccins russes et chinois. Mais le Sputnik V et le chinois n'ont pas obtenu d'autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament. Donc, en théorie, c'est non. Et si les Hongrois sont quand même vaccinés avec des doses russes, alors Budapest sera seul responsable s'il y a des incidents.
Bénédicte, pourquoi passer par un contrat à 27 et pas pays par pays ?
Alors d'abord, vous imaginez la cacophonie au sein de l'Union européenne si l'Italie, par exemple, avait des vaccins et pas nous. Et puis à 27, vous êtes plus fort sur les prix, sur les garanties aussi. Pour l'américain Moderna, le labo est quand même arrivé dans la négociation avec une batterie d'avocats. Oui. Pfizer également a cherché à discuter les règles de responsabilité juridique.
Pourquoi le Royaume-Uni a commencé à vacciner avant les Européens ?
Eh bien parce que les Britanniques sont passés par une procédure d'urgence dérogatoire pour démarrer plus vite. Mais s'il y a un problème, c'est le Royaume-Uni et pas le labo qui sera tenu pour responsable.
On parle maintenant d'un certificat de vaccination.
Oui, pour voyager, pour aller au restaurant, c'est la Grèce qui réclame ce papier. Ça rassurerait les touristes, estime Athènes. La France se dit réservée d'un point de vue juridique, mais aussi éthique. La question, elle sera débattue au Conseil européen spécial Covid de jeudi soir. Il y aura également des décisions sur la fermeture ou pas des frontières intérieures dans l'Union européenne et sur les tests PCR qui pourraient être exigés à chaque frontière.
Et au micro d'Alba Ventura tout à l'heure, Alain Fischer, qui est président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, expliquait que selon lui, ça posait de vrais problèmes éthiques. Merci beaucoup Bénédicte Tassin. Dans un instant, Michel Simès s'intéresse à cette tendance dont vous avez peut-être déjà entendu parler, prendre un bain glacé. Michel va tout nous expliquer.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous penchez sur une pratique qui gagne des adeptes, le bain froid, voire le bain glacé.
Oui, alors, sous certains aspects, les bienfaits du froid ont déjà convaincu pas mal de monde. Il n'est qu'à voir la multiplication des instituts qui proposent des séances de cryothérapie. On vous met dans une cabine pendant 2 ou 3 minutes, on fait descendre la température à moins 150 et parfois plus. Quand vous sortez de là, vous faites un bon dodo réparateur et vous vous réveillez comme neuf. Les sportifs de haut niveau utilisent d'ailleurs cette technologie pour mieux récupérer de leurs efforts, contenir la douleur et mater les œdèmes.
Ce qui semble adapté aux sportifs de haut niveau l'est-il pour vous et moi, qui sommes, disons la vérité, des sportifs de faible ou bas niveau ?
Oui, alors a priori oui, sauf si vous souffrez de maladies cardio-vasculaires. Le problème, c'est que le froid est emparé de toutes les vertus. Une nouvelle pratique se fait jour, il s'agit du bain glacé. Alors d'abord, je voudrais dire aux auditeurs qui ont lu ici ou là que ça permettait de lutter contre le stress et de booster les défenses immunitaires, que pour l'instant, tout cela n'est pas scientifiquement prouvé. Bon, admettons. Oui. Admettons que ça fasse du bien. Si vous êtes tenté d'essayer, sachez que ça demande de la préparation et un minimum de savoir-faire.
Alors, pas question, j'imagine, de s'immerger dans de l'eau glacée sans transition, c'est ça ?
Oui, absolument. Les connaisseurs parlent d'y aller en 3 étapes. La première étape, c'est d'apprendre à respirer à plein poumon. Pour ça, il faut savoir utiliser son abdomen et aussi sa cage thoracique. L'idée avec cet exercice, c'est de charger son corps en oxygène. Deuxième étape, faire quelques exercices de yoga. Ils ont le double mérite de réchauffer un peu le corps tout en faisant travailler votre concentration. Parce que de la concentration, il va vous en falloir pour passer à la 3e étape.
Ouh là là, vous m'intriguez. Quelle est-elle cette 3e étape ?
Eh ben, c'est l'immersion. Au moment où vous pénétrez dans le bain glacé, vous pouvez ressentir une sensation de brûlure. C'est là que votre capacité à bien respirer tout en restant concentré peut aider à faire la différence. Et moi qui l'ai testé, je peux vous dire que tout ça est vrai. Mmh. Évidemment, je déconseille à celles et ceux qui sont tentés par l'expérience de se risquer à faire ça tout seul. Il vaut mieux le faire avec quelqu'un à proximité, voire de se faire conseiller ou assister par une personne qui connaît la musique. Ce qui est clair, c'est qu'on ne s'étonnera jamais assez des capacités d'adaptation de l'organisme à son environnement. Figurez-vous que récemment, un habitant du nord de la France est resté pendant 2h35 minutes et 43 secondes dans une cabine de plexiglas remplie de glaçons.
Et donc 2h35 minutes 43 secondes, vous êtes précis.
Oui, parce que c'est tout simplement le nouveau record du monde de cette spécialité un peu particulière. Alors je précise quand même que l'homme qui s'est livré à cet exercice est un professionnel de santé, qu'il s'est entraîné pendant 2 ans avant de passer à l'action et qu'il a fait ça au profit d'une association qui collecte des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. L'association en question s'appelle Wonder Augustine et vous pouvez même l'aider financièrement puisque c'était le but de cet exploit.
Vous me donnez des frissons, à demain.
À demain.
Il est 8h23, merci d'écouter RTL. D'ici mercredi, le gouvernement va éclaircir sa position sur l'ouverture ou non des stations de ski et nous allons en parler dans quelques instants avec le président du Club Med, Henri Giscard d'Estaing. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, 7h-9h30,
avec Yves Calvi.
8h25, sauver la montagne du désespoir. Bonjour Henri Giscard d'Estaing.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes le président du Club Med et vous avez lancé ce week-end un appel à Jean Castex, que je viens de citer avec vos propres mots. Vous demandez une ouverture des stations de ski dès que possible. Avez-vous obtenu une réponse?
Pas encore, la décision doit être prise mercredi et c'est pour ça que j'ai voulu, dans le fond, donner l'enjeu. L'enjeu, c'est d'abord les vacances de dizaines de milliers de familles en février. Et puis l'enjeu, c'est celui de la survie de ce qui est un des rares leaders mondiaux français, la montagne française, qui avait réussi, au travers de travail de plusieurs générations, à prendre une position extraordinaire forte dans le monde.
Alors, soyons très précis. Vous connaissez très bien cet univers des stations de sport d'hiver, puisque vous y êtes présent avec le Club Med. Est-ce que vous souhaitez qu'on rouvre totalement les stations, les remontées, les restaurants, ou avez-vous un protocole particulier déjà auquel vous avez réfléchi?
Alors d'abord, il faut regarder les faits. Du fait de la fermeture des frontières, il y aura moitié moins de personnes. Puisque, d'une manière générale, en tout cas pour les stations de haute montagne, c'est près de 50% de la clientèle qui est étrangère.
Donc vous visez la clientèle française?
Absolument. Ensuite, il y a eu un travail qui a été fait par tous les opérateurs de montagne, j'appelle la cordée de la montagne, pour trouver les moyens d'assurer des vacances dans les meilleures conditions de sécurité. Par exemple, je prends ce qui nous concerne, nous demanderons à nos clients de se faire tester avant de venir. Et nous avons sur place toute une série de protocoles que nous avons mis en place déjà depuis le mois de mars dernier dans nos villages à travers le monde et qui fonctionnent. Ensuite, il faut que chacun prenne ses responsabilités et c'est bien le cas. Les remontées mécaniques se sont organisées pour gérer les files d'attente, limiter la fréquentation dans les téléphériques, etc.
Mais vous pensez que ça peut s'organiser? Enfin, ce sont des questions que vous avez évaluées avec les stations elles-mêmes où vous êtes présents. 14 clubs à la montagne, c'est bien ça?
C'est ça, dans les Alpes.
Bon, donc vous estimez que ça peut se faire?
Alors, tout à fait, sachant que par ailleurs, il se trouve que nous avons des Club Med de montagne ouverts ailleurs dans le monde. En Chine, 2, au Japon, 1, en Suisse, Saint-Moritz. Donc aujourd'hui, nous savons les faire fonctionner. Et dans des conditions qui sont des conditions où nous pourrons nous assurer de bonnes conditions de vacances, avec des contraintes, c'est vrai. Mais
quelles sont-elles? Donnez-nous l'exemple de ce qui se passe par exemple en Suisse.
Eh bien, en Suisse, chacun a sa réglementation. Il y a des limitations du nombre de personnes à table.
Oui.
Il y a, des horaires et une limitation des activités en fin de soirée. À la montagne, comme on est sportif, et il se trouve que dans les clubs belges, on a des belles et grandes chambres et toutes sortes d'autres activités, on peut parfaitement le supporter. Et puis ensuite, par exemple, nous avons un système où, s'ils le souhaitent, nos clients peuvent prendre leur température à tout moment, par des robots, et nous avons dans chacun de nos villages un médecin spécialisé sur ce sujet.
Est-ce qu'il est encore temps pour sauver la saison?
Mercredi, il est encore temps. Après, ce sera sans doute en effet trop tard, puisque vouloir ouvrir les stations de montagne au mois de mars, c'est comme vouloir ouvrir les plages en octobre.
Alors la montagne, j'imagine, se diversifie du fait de la crise sanitaire. Est-ce qu'on va en ce moment, est-ce qu'on peut aller en ce moment à la montagne pour faire autre chose que du ski? Moi, je suis un skieur invétéré, donc les raquettes, ça ne m'enthousiasme pas.
Je pense en effet que c'est nier une réalité qui est que la montagne, ce qui en a fait son succès, ce qui en a fait ce leader mondial, cet écosystème qui fonctionne, c'est fondé l'hiver sur les sports de glisse, le ski et tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que quand on regarde la fréquentation des stations autour de Noël, jour de l'an, il n'y avait que 15 à 20% des clients, donc des conditions qui ne permettent pas de fonctionner.
Donc réponse mercredi des services du Premier ministre, et vous nous dites ce matin, nous sommes prêts, je vous ai bien compris.
On est prêts.
Le Club Med est présent partout dans le monde, vous venez de l'évoquer, notamment dans les Antilles. Alors de nouvelles règles s'appliquent, et notamment en arrivant en Guadeloupe ou en Martinique, où un test PCR négatif et un isolement de 7 jours sont obligatoires. Et est-ce que vous avez un commentaire? Est-ce que ça ne peut pas être justement des surprises, une fois de plus, difficiles pour vos clients?
Ce sont en effet des difficultés complémentaires. Nous avions ouvert avec beaucoup de succès notre Club Med de la Caravelle en Guadeloupe. Oui. Et nous avons réussi à assurer des... très belles vacances, je le crois. En tout cas, c'est ce que nous disent nos clients et nos équipes avec beaucoup de vigilance. Et là, nous sommes soumis à une nouvelle contrainte qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles.
Ça va freiner les déplacements sur les séjours d'une semaine?
Si ces dispositions sont confirmées, oui.
Vous avez un taux de réservation, justement, pour les prochaines semaines, au moment où nous parlons dans ces clubs de nos départements et territoires d'outre-mer?
Ils étaient pleins.
Ils étaient pleins?
Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a une vraie demande et que les Français veulent prendre des vacances et pouvoir respirer, si je vous suis
bien.
Ah,
mais il y a une demande énorme et je pense qu'il faut prendre conscience de la situation pour les familles. Dans 15 jours, les familles françaises sont en vacances. Qu'est-ce qu'elles vont faire?
Avant de nous séparer, quel est le message que vous voulez envoyer au gouvernement ce matin?
Je voudrais lui dire qu'il faut essayer de sauver la montagne française. Que c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui sont compétents, sérieux, qui connaissent leur métier, qui ont réussi à faire un leader mondial, qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire plaisir à leurs clients et de donner aux familles ces souvenirs exceptionnels de ces sommets, de cette beauté des Alpes.
L'appel d'Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, ce matin en direct sur RTL. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci infiniment. Dans quelques instants, c'est Louis Bodin qui va donner ses prévisions météo à 7 jours.
Bonjour, c'est Stéphane Boutsov.
Laissez-vous tenter.
Depuis le printemps dernier, nous suivons en exclusivité le chantier titanesque du prochain film de Jean-Jacques Hano consacré à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Troisième rendez-vous ce matin, je vous ferai visiter en compagnie du réalisateur les coulisses des ateliers où sont construits les décors de ce projet hors norme.
C'est très cinématographique, c'est invraisemblable. Les pompiers que j'interviewe tous me disent que c'était monstrueux et en même temps, c'était comme un opéra. Terrifiant.
Jean-Jacques Hano nous ouvre les portes des studios où il recrée Notre-Dame. Rendez-vous à 9h dans Laissez-vous tenter.
RTL Matin. 8h34, je vous retrouve avec grand plaisir Louis Bodin pour notre météo à 7 jours. Et donc, oui. Nous vous écoutons.
Alors, il va se passer encore beaucoup de choses ces prochains jours avec des phases un peu plus calmes. Ça commence aujourd'hui, un peu moins d'averses, un peu moins de froid, hein, même si on a encore des températures hivernales, notamment dans le nord-est. Toujours un risque d'avalanche dans les Alpes. Demain, cette petite trêve va se poursuivre avec un temps plutôt sec dans la plupart des régions, sauf peut-être près de la Manche où on se verra des nuages un peu plus menaçants. Peut-être quelques plumes, mais ça n'ira pas plus loin. Toujours du soleil dans le sud, notamment près de la Méditerranée. Les températures, alors toujours pareil, là où le ciel sera dégagé en cours de nuit, on retrouvera des gelées, donc principalement dans le sud. Et puis l'après-midi, des températures qui iront de 6 à 9 degrés à peu près dans la moitié nord, un peu plus de 10 degrés dans le sud. Mercredi, ça commence à bouger avec probablement une certaine douceur, des températures qui frôleront les 8-9 degrés dans la moitié nord et un peu plus de 10 degrés dans le sud. Mais avec le retour des nuages un peu plus denses, avec des averses, notamment dans le nord-ouest, peut-être également près de la Méditerranée, ça reviendra donc du sud. Et puis tout ça va se confirmer à partir de jeudi, où là les perturbations vont être de plus en plus actives, retour de la pluie, mais comme les températures vont baisser, il neigera à nouveau à basse altitude sur tous les reliefs. Et puis ensuite ça va s'enchaîner jusqu'au week-end, où les températures vont baisser progressivement, et peut-être que je vous reparlerai de neige dans la moitié est, jusqu'en plaine, notamment entre vendredi et samedi. Évidemment, cette neige qui tombera en montagne, et les températures qui repasseront un peu en dessous des normales de saison.
Alors voilà pour les projections françaises à 7 jours. Une question peut-être plus générale, se fera
froid est-il généralisé dans toute l'Europe et non à la seule France?
Oui, exactement. Alors, on a de l'air froid sur toute l'Europe de l'Ouest. Alors, ce n'est pas une vraie vague de froid, simplement un froid hivernal habituel qui nous a donné cet épisode de neige jusqu'en plaine, plus marqué en Allemagne, par exemple, ou encore du côté de la Suisse. Mais c'est plus dans l'hémisphère nord où on a des vagues de froid un peu plus consistantes par rapport aux hivers précédents. On en a eu aux États-Unis, sur le Canada, on en a en Chine où on bat des records de froid, ou encore au Japon où on a battu des records de froid absolu en matière de température, notamment dans le nord. Donc on fera le bilan à la fin de l'hiver, mais il paraît un peu plus normal que les hivers précédents, en tout cas jusqu'à maintenant.
Merci beaucoup Louis Baudin. Dans un instant, on va s'intéresser aux femmes jockeys. Vous avez bien entendu, jockeys.
RTL, vous êtes comme ça.
Avec une rencontre ce matin avec une femme de caractère, Coralie Paco. Cette jeune femme de 22 ans est dans le top 10 français sur le plat. Cravache d'or en 2019 avec 71 victoires. Vous l'avez compris, elle est jockey. Et petit à petit, elle s'impose dans le monde des courses hippiques. L'un des rares sports où femmes et hommes jouent ensemble. Bonjour Morad Jabari.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez passé une journée avec cette étoile montante du galop. Elle s'entraîne à l'hippodrome de Deauville. Et tout débute évidemment à l'écurie très tôt le matin.
L'écurie est encore endormie, de la fumée se dégage du foin mêlé au fumier. Le thermomètre affiche 0 degré. Il est 5h30 et Coralie Paco est déjà en tenue. Elle réveille délicatement sa pouliche.
Là, je suis en train de la brosser, la sceller, la préparer pour qu'elle soit enfin prête à sortir dans le grand froid. On va s'entraîner à peu près une heure. En hiver, on fait un travail un peu moins dur qu'en été pour qu'il se développe physiquement.
Je vous laisse faire.
C'est fini.
C'est parti?
Ouais.
Sur sa monture, très vite, Coralie s'enfonce dans la nuit, disparaît, et c'est sous les projecteurs de la piste de l'hippodrome, un peu plus loin, que son ombre surgit. Ce que vous entendez là, c'est le vent, le crissement des harnais, la respiration du cheval. Grâce à un micro embarqué, on est en selle avec Coralie Paco.
Je vais aller faire un petit canter tranquille, c'est-à-dire que c'est la vitesse au-dessus du galop de chasse, mais c'est pas la vitesse où on va tous les jours en temps normal quand les courses s'approchent. On va relever la première couverture. Allez, ma poupette. Hop là!
Ils sont à fond là?
Ah non, non, pas du tout. Alors là, ils sont à entre 45 et 50%. J'ai arrêté de parler parce que là on est très près d'eux et on leur fait peur dans le noir, donc je ne rajoute pas la voix en plus parce que...
Jean-Bernard Roth, vous êtes l'entraîneur de Coralie Paco qui est à cheval en ce moment sur la piste. Est-ce que vous pouvez un peu parler d'elle?
Ah bah oui, elle fait partie des jeunes filles sur la montante et elle est capable de monter de très bons parcours. Elle s'entend bien avec la plupart de ses chevaux.
Est-ce qu'il y a un avantage à être une fille?
Elles ont quelque chose que n'ont pas les hommes. Elles sont intuitives, très fines dans ce qu'elles font. Vous voyez, un cheval qui est un peu inquiet, un cheval qui est un peu stressé. Une fille va lui apporter ce qu'un garçon ne pourra pas lui apporter. Vous allez regarder dans notre effectif combien on a de garçons et combien on a de filles. Ça, c'est une jeune fille, c'est Maëlle, ça fait 1. Laetitia, ça fait 2. Regardez, on est 28, donc j'ai quand même 20 filles.
C'est énorme.
Moi, j'ai basculé dans le 70-30, quoi. Aujourd'hui, elles sont capables d'égaler beaucoup de garçons.
Pourquoi en course, il y a toujours autant de garçons?
Eh bien, parce que vous avez énormément de conservatisme. On avait quand même affaire à un environnement assez misogyne, voire très misogyne.
Un milieu misogyne qui fait sa révolution, on vient de l'entendre. La majorité des cavaliers, des accompagnateurs d'entraînement sont femmes. Mais elles restent encore dans l'ombre. À l'écurie, peu de propriétaires leur font confiance en course. Il y a 600 jockeys en France, dont 200 femmes. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Morad, vous avez retrouvé Coralie Paco quelques minutes avant le quintet.
Exactement, elle vient tout juste d'enfiler sa belle casaque fluo. Jaune, vert, bleu, les couleurs du propriétaire. Dans ce quintet, il y a 16 partants, dont 4 femmes, ce qui est assez incroyable.
Pour un quintet, c'est vraiment beaucoup. C'est rare d'ailleurs qu'on soit autant de filles dans un quintet. Mais moi, c'est pas non plus très très régulier que je le monte.
Donc là, vous allez jouer des coudes avec des garçons, parfois plus lourds.
Et moi, j'aurai le plus petit poids d'ailleurs de cette course.
On se retrouve après la course. Bonne chance.
Merci.
Évidemment, avec les restrictions sanitaires, les courses se déroulent à huis clos. Mais on a la chance immense d'être sur le bord de la piste en compagnie d'Elena Dupuis, de France Gallo, l'organisateur des courses en France. Est-ce que vous voyez de plus en plus de jockeys au féminin au départ des courses?
France Gallo a décidé de faire un peu de discrimination
communication positive en mettant une remise de poids pour inciter les propriétaires, les entraîneurs à mettre plus souvent en selle des femmes réputées moins fortes physiquement. Il faut savoir que dans les courses, un écart d'un kilo dans le poids des jockeys peut être estimé à un avantage d'une longueur à l'arrivée. Il fallait leur permettre d'avoir des vraies perspectives de carrière, qu'elles existent également dans la compétition et pas seulement le matin à l'entraînement.
Stéphane Rox qui va ouvrir son palmarès. La deuxième place est à voir entre Océan Shop et le 9 Dillard qui a bien terminé.
Coralie Paco, on vous retrouve après cette course. Comment ça s'est passé?
Ça s'est plutôt bien passé. Après, le cheval n'a pas fait l'arrivée, mais c'était assez court. Sur plus long, à Cannes, ça ira mieux.
Est-ce que c'est dur de se faire sa place?
Ça a été dur au début. Après, ça nous forge. Il faut être dur, on nous l'a toujours dit. Il faut être dur dans ce métier. Il faut avoir la confiance des entraîneurs, des propriétaires et être respecté des autres jockeys.
Il faut être une femme forte.
Il faut être très forte de caractère, même très forte.
Avec sa gueule d'ange, ses longs cheveux châtains et ses grands yeux verts, Coralie Paco prend les rênes, s'impose pour convertir peu à peu les courses hippiques à la mixité.
Merci beaucoup Mourad Djavari. Vous êtes comme ça dans le monde très fermé des courses hippiques en compagnie de Coralie Paco, à retrouver sur le site RTL.fr.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h41 et ce matin, Isabelle Choquet, vous revenez sur la mort du producteur Phil Spector et sur ce meurtre qui lui a valu en fait de mourir en prison à l'âge de 81 ans.
Oui, on en a parlé dans nos journaux ce matin. Phil Spector, producteur de légende, notamment du dernier album des Beatles, Let It Be, mais aussi personnage sulfureux, condamné pour avoir tué Lana Clarkson. L'Obs republie aujourd'hui un article paru pendant le premier procès. Oui. Retour au 3 février 2003. Il est 5h du matin et le chauffeur de Spector dort dans la Mercedes quand soudain, il est réveillé par un coup de feu. À la porte du château baroque où vit le producteur, Adriano voit apparaître son maître, un colt entre les doigts, les mains ensanglantées. Selon son témoignage, Spector dit simplement « Je crois que je viens de tuer quelqu'un ». Derrière lui, la belle Lana s'est effondrée dans un fauteuil du vestibule, le crâne en bouillie. L'Obs revient sur la rencontre presque inéluctable entre la starlette ratée et le producteur de pop music déchu. Premier contact au House of Blues, le légendaire café-club de Sunset Boulevard à Los Angeles. Lana, c'est une blonde de 40 ans aux jambes de rêve. Elle devrait se rendre à l'évidence, elle n'a aucun talent, mais comme toutes les créatures perdues, elle rêve toujours du coup de chance qui la lancera enfin. Arrive Phil Spector et comme dit l'Obs, il n'a pas su que des glaçons. Son compteur affiche 3 daiquiris, 2 grog et déjà 2 petites pépées. Une nuit comme tant d'autres. Car Spector n'a jamais accepté de ne plus faire partie de l'Olympe du rock. Il a été au sommet dans les 60s grâce à son fameux Wall of Sound, un mur de son saturé de synthé. Spector a surnagé ensuite grâce à Let It Be précisément. Il s'est cramponné à Lennon sur Imagine, mais depuis la fin des années 70, il est fini. Incapable de se débarrasser de son style d'ado déjanté, de ranger ses redingotes de velours, ses chemises mauves et ses perruques délirantes. Ses journées, il les passe cloîtrées dans son Xanadu, son manoir néo-victorien. Il se passe en boucle Citizen Kane, c'est son film préféré. Il a gardé ses manières de diva, capable de virer un domestique d'un claquement de doigts ou de donner un pourboire de $500 à une serveuse. Quand il sort, il est entouré d'armoire à glace en costume à rayures et on le voit parfois au bras de sa jeune femme très blonde. Bref, il est très entouré et il crève de solitude. Alors, quand il est vaguement en forme, eh bien, il joue les oiseaux de nuit. On continue à l'inviter dans les soirées parce que quand même, c'est Phil Spector. D'ailleurs, c'est ce qu'il balance à Lana quand il débarque au House of Blues. Je suis Phil Spector parce qu'elle, elle l'a pas reconnu. Avec sa perruque, elle l'a même pris pour une femme. Elle se fait reprendre par son boss. Réserve-lui un traitement en or, ma belle. Message reçu, Spector la drague, elle lui sourit gentiment. Ils repartent ensemble et on connaît la fin. Spector parlera d'un accident, dur à croire. Dans son manoir de grand paranoïaque, les flics retrouvent 12 flingues et aussi 14 téléphones. Ça l'a toujours fasciné, les armes à feu. D'ailleurs, il défouraillait à tout bout de champ, ça faisait partie de la légende. Toutes ses amies ou ses copines d'un soir racontent les menaces, les pistolets braqués sur elle. Il s'est fait virer d'une soirée pour avoir brandi sa pétoire en hurlant que toutes les femmes méritent une balle dans la tête. Il a tiré dans le plafond du studio de John Lennon un jour d'enregistrement. Il a posé son flingue sur la nuque de Leonard Cohen en lui disant « Leonard, I love you ». Plein d'esprit, Cohen aurait répondu « J'espère que c'est vrai, Phil ». Phil Spector, le mauvais génie du rock, article à lire ou à relire sur le site de l'Obs.
Avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment Isabelle Choquet. À demain matin.
À demain.
Il est 8h44, nous allons retrouver Laurent Gérard dans un petit instant avec son équipe.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Je crois que le Premier ministre veut nous parler.
Mes chers compatriotes,
Les graphiques et les camemberts d'Olivier Véran sont formels. Les Français contournent le couvre-feu de 18h en commençant l'apéro à 17h50. Et le comité scientifique est formel. Boire 1,5 litre de pastis en 10 minutes, c'est mauvais pour la santé. Et nous risquons l'explosion des services hospitaliers.
Mais alors que comptez-vous faire ?
Nous allons avancer en responsabilité le couvre-feu à 16h pour éviter l'effet goûter. Le conseil de défense est formel. Certains Français, à l'heure du goûter, se réunissent dans les maisons de retraite pour tremper leur boudoir dans leur porto.
Mais non. Alors du coup, ça risque de ne pas suffire.
Voilà pourquoi nous allons avancer le couvre-feu à midi.
Oul.
Fumier !
Ah, bonjour Gérard Depardieu. Pourquoi vous interrompez comme ça le Premier ministre ?
Oh, je vais me le faire, l'autre ahuri avec sa tête d'endive à lunettes.
Mais calmez-vous, Gérard.
J'ai compris son manège au Castex. C'est pas le Covid qui veut éradiquer. C'est les deux seules bonnes choses de la vie. La bouffe et la picole. Avoir fermé les bistrots et les restos, ça lui suffit pas. Maintenant, il s'attaque à nos tables, avec de jolies nappes à carreaux, et dessus un bon cochon de lait et un litron de pinard. J'ai faim, nom de Dieu ! Cher Gérard Depardieu, en responsabilité, Olivier Véran, faute de vaccin, s'engage à distribuer à chaque Français du quinoa 0% sans gluten et des bouteilles d'eau minérale. Fumier !
Dans un entretien au Parisien, l'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen, a révélé avoir contracté la Covid-19 sans s'en être rendu compte. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, aussi. Comment allez-vous depuis votre infection par le coronavirus ?
Comment voudriez-vous que j'allasse, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une petite bestiole à picot d'origine asiatico-mandarino-pangolino-shintok qui risque de m'interrompre dans la rédaction de mes mémoires. J'en ai vu d'autres dans les Aurès, croyez-moi.
Vous dites que c'est par une simple prise de sang que vous avez appris que vous aviez eu le virus.
Yavol. Et croyez bien que je le regrette, car si cette mauviette de virus avait eu le courage de m'attaquer en face, il eût passé un mauvais quart d'heure, n'est-ce pas ? D'ailleurs, au lieu de finasser avec des demi-mesures de confinement et de couvre-feu et des amendes à 135€, le gouvernement, n'est-ce pas, ferait bien d'adopter la manière forte pour lutter contre l'épidémie et ceux qui la propagent.
La manière forte, ce serait en quoi, en l'occurrence, Jean-Marie Le Pen ?
Eh bien, écoutez, des méthodes qui ont fait leur preuve, n'est-ce pas ? Les dénonciations aux autorités compétentes, les tenailles, la baignoire et la gégène pour les récalcitrants.
Ouh là là, c'est pas sûr que ces mesures sanitaires fassent l'unanimité. Hein.
Je constate effectivement un ramollissement général des mentalités. À part naturellement en Amérique, où l'excellent monsieur Trump, avec sa belle coiffure blonde, donne l'exemple de ce qu'il faudrait que fît mon parti s'il n'était pas dirigé désormais par des genoux ramollos, démocrato, cravato, louialio, bardello, marinistes, n'est-ce pas ?
Vous voulez parler du Rassemblement National que préside votre fille Marine, je présume. Oui. Bon, alors, que faut-il vous souhaiter pour 2021 ?
Que Jeanne, qui m'a déjà sauvé du virus, sauve la France. Jeanne, au secours !
Nous sommes le 18 janvier et célébrons comme chaque année le Blue Monday, considéré comme la journée la plus déprimante de l'année. Bonjour Michel Houellebecq.
Chour.
Ah oui, chour. Alors Michel, que signifie pour vous cette journée particulière ?
Vu que je déprime naturellement toute l'année, pour moi le Blue Monday est un défi. Je dois réussir à déprimer encore plus que les autres jours.
Oui, et comment vous y prenez-vous ?
D'habitude, je regarde en replay une théma d'Arte sur la Seconde Guerre mondiale ou sur les charniers de Ceausescu, mais cette année, ça ne va pas suffire. Il faut que je sorte l'artillerie lourde.
Oula, c'est-à-dire ?
Je vais me faire toutes les conférences de presse de Jérôme Salomon, Jean Castex et Olivier Véran. Depuis le début de la crise du Covid, avec un bon verre de vin, ça devrait passer tout seul.
Oui, mais vous n'avez pas peur que le vin vous remette du baume au cœur ?
Non. Parce que là, c'est un verre de vin oublié sur ma table basse depuis 3 semaines, avec des mégots, des emballages d'apéricubes qui flottent dedans.
Oui, avec ça, vous allez bien déprimer.
Et si ça suffit pas, je me suis imprimé l'intégrale 2020 des newsletters d'Europe Écologie Les Verts en écriture inclusive, au cas où.
voici le moment tant redouté par les estomacs fragiles de notre page de publicité avec Benjamin Castaldi.
Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. C'est l'animateur qui vit confiné avec sa perche à selfie. Cette semaine, je me suis mis sérieusement au régime. Au régime comme j'aime. Avec que du riz et des carottes bouillies. Résultat, je suis hyper constipé et j'ai pris 5 kilos. Mais mon partenaire, ma sœur, comme j'aime, n'est pas content, car on dirait que j'en suis à 8 mois de grossesse. Et moi, à force de pousser, j'ai des hémorroïdes et le postérieur comme un chou-fleur vapeur.
Oh non.
Et je risque de perdre 500 000 boules des spots comme j'aime. Heureusement, chez comme j'aime, ils m'ont envoyé la pommade comme j'aime. Essayez-la gratuitement pendant une semaine, ça soulage vraiment. Et maintenant, quand je suis assis sur le plateau d'Aduna, je me tortille plus sur ma chaise. D'ailleurs, faut que je vous laisse, j'ai une grosse commission à faire.
Non.
Vous avez pas.
Merci comme j'aime.
Oh non.
C'est donc aujourd'hui. C'est donc aujourd'hui que la vaccination s'ouvre aux personnes de plus de 75 ans. Pour en parler, nous recevons un chanteur qui a dépassé cet âge canonique. Bonjour et bonne année Enrico Macias.
Bonne année à toi ma petite gazelle masquée et 5 sur toi mon frère Yves.
Bonne année Enrico.
Vous allez vous faire vacciner ?
Bien sûr ma petite princesse que je vais me faire vacciner à moi.
C'est bien.
Même si j'aime pas trop les piqûres parce que moi je sais dans ma chair que le vaccin c'est vraiment important.
Ah bon ? Racontez-nous ça Enrico.
Ça date du temps que je m'appelais encore Gaston et qu'on était toute la famille à faire du malouf avec le chic Raymond dans la Casbah à Constantine. En ce temps-là, mon cousin Aziz, il avait adopté un renard du désert. Un joli petit fennec, tout doux et tout doré, comme ton poncho.
Ah oui, comme mon poncho.
Il l'avait appelé Georges son fennec. Au fur et à mesure, Georges le fennec, il s'est habitué à la maison. Il rentrait, il sortait tranquillement comme il voulait. Mais un jour, Tata Jamila... Elle voulait faire un couscous. Elle a trouvé son sac à pois chiches tout éventré dans la réserve, la mort de mes os. Et tonton Abdel, il s'est fait bouffer la moitié de ses babouches du dimanche. Celles tout en cuir avec des arabesques endorées sur le dessus.
Ah oui, il se passait vraiment de drôles de choses chez vous, Enrico.
Attends, tu vas voir comme c'est dramatique.
Oui.
Un jour, Tata Jamila, elle a entendu des bruits dans la cuisine. Et là, au milieu de la nuit. Elle a dit à tonton Abdel d'aller voir qui c'était. Oui. Alors tonton Abdel, il est allé voir, il est tombé sur Georges le Fennec en train de finir le tagine au pruneau.
Ah bah, je l'aurais parié.
Sauf que là, Georges le Fennec, il roulait des yeux de fou comme s'il avait reçu un courrier de l'URSSAF. Et il avait la bave aux lèvres, comme si qu'il avait pris un PV de stationnement. Tellement il était fou, Georges le Fennec, qu'il a mordu tonton Abdel au gros doigt de pied et qu'il est ressorti par la fenêtre. Après, le docteur Touboul...
Oui.
Il nous a expliqué
le bon
que Georges le Fennec, il avait sûrement la rage, mais que tonton Abdel, il risquait rien parce qu'il était vacciné.
Ah, dis donc, voilà. Oui, alors
CQFD, tu comprends pourquoi que moi, je vais me faire vacciner plutôt deux fois qu'une contre la petite bête à picot, parce que elle aussi, hein, elle a l'air enragée, elle a mort de mes os, hein.
Ah là là, il est 8h56. Merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site RTL.fr. On a rendez-vous demain matin, juste avant 9h. Et Cyril Lignac arrive dans quelques instants. De retour du marché aux truffes.
RTL Matin, Yves Calvi.
Grand bonjour Cyril Lignac.
Bonjour.
Les auditeurs vous posent leurs questions comme d'habitude sur le site rtl.fr/participer. Et Patrice, qui vit à Bonnieux, est allé faire un marché aux truffes ce week-end. Il nous dit qu'il s'est fait plaisir, car avec la fermeture des restaurants, le prix de la truffe a chuté d'environ 20%. Patrice vous demande comment utiliser ensuite ces truffes pour sublimer un repas.
Alors, c'est vrai que cette année, c'est le moment d'en profiter parce que le prix de la truffe a vraiment baissé. Et d'année en année, des fois elle est très très bonne, elle est goûteuse, des fois un petit peu moins. Là cette année, elle a vraiment un parfum incroyable. Donc moi j'aime le faire en entrée dans une belle salade avec des Saint-Jacques en carpaccio, qu'on fait tiédir un petit peu au four, une petite vinaigrette,
ouais.
Des truffes. Mais pour moi vraiment, le meilleur c'est les pommes boulangères. C'est-à-dire,
ah oui.
on fait revenir des oignons, on met dessus les pommes de terre, on met des truffes, on remet des pommes de terre... On fait un bouillon, on mouille au bouillon le plat gratin, on met au four, on laisse cuire dans le bouillon avec la truffe, on pose au milieu de la table, et ça pour moi c'est la quintessence.
Alors ça me fait très envie, mais est-ce que l'oignon ne mange pas la truffe ?
Pas du tout.
Ce que je veux dire ?
Pas du tout, parce que c'est un champignon la truffe, et donc l'oignon et le champignon ça marche ensemble. Donc pomme de terre boulangère à la truffe, c'est facile, et sinon si on a un bon, un bon fromage crémeux,
oui.
On coupe le fromage en deux, et on met la truffe à l'intérieur, on referme dans un bon camembert, un triple crème.
Ou un brie à savarin.
Un brie à savarin. Et comme ça, on peut le garder au moins une semaine et on peut en profiter.
Vous avez autre chose à nous proposer avec les truffes ?
J'en ai plein, hein. Sur les huîtres, alors du coup, des petites huîtres à la truffe, une entrée avec des huîtres, un petit beurre d'algue, on recouvre l'huître de truffe et on a le côté iodé qui marche avec la truffe.
Ah là là, grand soupir d'amateur de truffes. Merci beaucoup pour ces recettes, Cyril, qu'on retrouve bien entendu sur le site rtl.fr. Il est 9h.